Leçon des autres sur Canal B.
African Anarchist Radio. Radio. All you free Negroes say yeah. Yeah, yeah.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau Canal B, fréquence mutine dédiée au Festival des Arts de la Rue de Morlaix. Nous sommes à Morlaix, eh ouais, pour cette 24e édition, si j'ai bien compris, du Phare, c'est
du
ça?
Du Phare qui débute.
Bonjour Cathy.
Donc, bonjour Paco, bonjour les auditeurs du Phare qui débute donc ce mercredi, qui finira vendredi. On est là pendant 3 jours en direct.
Exactement, midi 14h, donc tous les jours en direct sur Canal B, mais aussi en direct sur fréquence mutine.
94 à Rennes et 103.8 à Brest.
Voilà, alors Brest, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé une radio copine qui pourrait nous diffuser sur Morlaix. Par contre, on peut le faire quand même via Internet. Vive la modernité quand même. À un moment donné, les ordinateurs, ça sert à quelque chose. Et notamment, vous allez faire un petit tour soit sur le site de Mutine, soit sur le site de Canal B, soit sur le site du Fourneau.
www.artdanslarue.com/blog et vous pouvez récupérer le flux.
Et vous allez me dire, mais pourquoi le Fourneau? Ben parce que le Fourneau, c'est cette salle, ce lieu pour être plus exact, de création artistique conventionnée, qui notamment propose l'organisation de ce Festival des Arts de la Rue de Morlaix. C'est le Fourneau de Brest qui organise le Phare à Morlaix, et puis ben, ça tombe bien parce que Claude et Michel sont là, c'est les deux, on va dire, directeur général, président, lieutenant, sergent,
les deux
caporal,
têtes pensantes, moi je dirais,
voilà,
carrément
les programmateurs, bref, les chefs quoi, les patrons, les managers du Fourneau, qui sont là pour nous parler en tant que premiers invités. On aura d'autres invités d'ailleurs dans cette émission.
Oui, tout à fait, puisqu'on retrouvera Lucas Moros pour son spectacle qui a l'air grandiose, hein. On en saura plus tout à l'heure. On aura Bilbo Basso, pardon, Hannibal et ses éléphants et Puzzle Théâtre. Ça, c'est le programme d'aujourd'hui.
Et pour commencer, on s'écoute un petit morceau de musique tiré de la programmation du Festival des Arts de la Rue de Morlaix. En l'occurrence, il s'agit de Sergent Pépère.
J'étais sûr.
C'est bizarre. Hein.
Bien que tu adores et qu'elle a de jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Cheveux si blonds, tu as l'air d'un chérubin. Va plutôt jouer au ballon, comme le font tous les gamins. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes, te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux penser comme les grands. Grande vient ta main dans l'île, mon petit bambino. musique pleut voler, que sur le ciel d'un étalé. Quand elle est à moi, quand il est mon petit bambino, tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments, c'est fait pour ça.
Sergent Pépère sur Canal B et Fréquence Mutine en même temps, mais aussi sur le net, sur le site du Fourneau notamment. C'était, bah oui, pour souligner ce début d'émission consacré donc au Festival des Arts de la rue de Morlaix. Je vous rappelle qu'on est en direct depuis une petite école qui s'appelle l'école Pen quelque chose. C'est un truc qu'on est en Bretagne ici. Hein.
ouais, c'est ça.
Pen comment ?
Point de Ben.
Point de Ben, voilà. Ça doit vouloir dire quelque chose de super intelligent, mais voilà, malheureusement, je ne maîtrise pas ça. Ah, c'est vrai en plus, c'est ça,
Michel. Et donc, on est avec Michel et Claude du Fourneau.
Un petit mot quand même avant de les accueillir. Sergent Pépère jouera ce soir, on vient de les écouter, avec leur ancienne, sur leur ancienne création qui était le Bal Pépère. Ils présentent une nouvelle création ce soir et c'est très bien. À 21h30, place des Jacobins, ici à Morlaix. Alors, la compagnie Claude et Philippe est avec nous.
Claude et Michel.
Claude
là.
Et Michel est avec nous, Claude et Philippe. Oui, parce qu'il y a Kiki et Pascal, il y a Bébert et je sais plus qui, enfin il y a plein de compagnies avec
Lolo,
Bébert Lolo.
Voilà.
Fréquence Plus aussi, mais non. Bon, alors l'ouverture
bonjour,
de.
Claude, bonjour Michel.
Bonjour. Cette ouverture de la 24e édition. Tout le monde est prêt ?
Tout le monde est presque prêt, puisque.
Sauf la météo.
L'ouverture c'est 16h16, donc nous serons fin prêts à 16h16.
Et ça commencera par un spectacle ?
Alors ça commencera d'abord par une inauguration qui sera un petit peu, qui sera pas au centre, hein, qui sera du côté de la rue des Roses, là où la rue Jean-Bart croise l'ancienne ligne de voie ferrée. Donc il faut vraiment le trouver, mais c'est un très très bel endroit.
Et ça s'appelle Les Trois Coups, par référence, par hommage au théâtre,
aux
Trois Coups du théâtre.
Hein,
c'est bien ça, donc ça veut dire que c'est une inauguration, on ouvre, attention, il va se passer quelque chose.
Voilà, c'est ça.
Et vous payez un coup.
Et un petit bout de phare.
Et un petit bout de phare.
Et pourquoi cet endroit-là aussi ? C'est pour faire le lien donc, avec le Mai des Arts dans la rue. Le projet donc Théâtre de rue en Pays Morlaix. On a coutume de dire que dans cette communauté d'agglomération de 28 communes, le Théâtre de rue est en marche. Et à chaque fois, effectivement, chaque nouvelle étape donne lieu à une randonnée qui est proposée. Donc cette randonnée va quitter dans quelques instants Sainte-Sève, là où le Mai des Arts s'est arrêté. Et donc ils arrivent en marchant, ils arrivent aussi en VTT. Et on a rendez-vous donc au croisement de la rue des Roses avec cette ancienne voie ferrée qui desservait le port de Morlaix, qui reliait le port de Morlaix à la gare de Morlaix. Donc, et c'est là que symboliquement, la transmission du trousseau de clés de l'intercommunalité va s'effectuer à 16h16 pétante.
Alors, c'est la 24e édition du Festival des Arts de la rue de Morlaix, mais ça n'est pas la 24e année que vous participez à cette organisation de ce festival ?
Non, nous sommes là depuis quand même 1997.
Depuis 97, et ça nous fait donc plus ou moins 13 ans ?
C'est notre 14e
année.
14e édition, donc organisée par Le Fourneau.
Par Le Fourneau, Centre National des Arts de la rue.
Voilà, il y a eu un relais qui s'est effectué. Comment on reprécise ça rapidement, parce qu'on a du mal à comprendre quand on est peut-être ou à Brest ou même à Rennes, pourquoi c'est
pourquoi
des gens de Brest qui organisent un truc qui se passe à Morlaix.
Parce que d'abord, il y a eu ici à Morlaix un directeur du théâtre pionnier et précurseur. Donc Yvon Déraison, hein, qui n'est plus des nôtres. Donc, et qui a eu l'idée, le premier, d'inviter les compagnies à jouer sur l'espace public. Le premier, j'exagère, mais le premier en Bretagne. Nous, en ce qui nous concerne, on ne s'appelait pas encore Fourneau. Et on faisait aussi nos premiers pas dans la rue, du côté de la commune berceau de Leurlec, qui est Ruon.
À côté de Brest, hein, pour les Rennais, on précise quand même.
Et donc aujourd'hui d'ailleurs, associé au Centre National, un signataire de la Convention. Mais Yvon avait été ce pionnier en tant que directeur de théâtre, en disant que le théâtre peut aussi se jouer dans la rue. C'est au moment du début, hein, des Royales de Luxe.
Si, il y a 25 ans, effectivement, c'était vraiment au début. On voyait les premières créations des Royales de Luxe sur Rennes ou sur Nantes, effectivement.
Et d'ailleurs, on a fait un sacré clin d'œil pour les 20 ans du Phare, en réinvitant Royal de Luxe à reprendre le roman photo, hein, qu'il a transmis à la compagnie chilienne La Grand Rénateur. Ça avait été nos invités. Pour nous, c'était aussi très émouvant, puisqu'on l'avait vu en tant que spectateur. Donc voilà, à l'origine, donc, cette volonté du directeur du théâtre, mais aussi des élus de l'époque, hein, qui avaient suivi le directeur pour monter ce rituel, hein, puisque c'en était un.
Mais il y a 14 ans, le Fourneau, c'était pas le Fourneau de maintenant.
C'était une association, c'était Grain de Folie.
D'accord.
C'était Grain de Folie, voilà.
Et vous aviez quoi comme activité à cette époque-là ?
Ah, on s'occupait déjà d'art de la rue. Mmh. On était déjà dans le Fourneau à Brest.
Que vous aviez squatté ?
Qu'on avait un petit peu squatté,
au tout début,
sans doute. Et on avait surtout, oui, on programmait également à cette époque-là les Jeudis du Port, dans leur côté donc art de la rue. Et surtout, on avait un festival de création qui commençait à 4h le matin et qui finissait à minuit. Et c'était un festival vraiment de création où toutes les grandes compagnies de théâtre de rue venaient travailler à Brest pendant certaines 15 jours, d'autres pendant plusieurs mois en revenant régulièrement sur Brest pour écrire une histoire, pour bouleverser un petit peu le quotidien des gens. Mmh. Et donc de ce Grain de Folie, on est passé ensuite au Centre National des Arts de la Rue, en faisant un petit peu court, oui. Qui est donc devenu un lieu permanent de création pour le théâtre de rue. Lorsque, au niveau du ministère de la Culture, il est apparu important que les compagnies de théâtre de rue, avec leurs grands décors, trouvent des lieux de création appropriés pour elles.
Oui, parce que a priori, si on résume un petit peu, le théâtre pour le ministère de la Culture, donc la DRAC, c'était le théâtre en salle, point, et on distribuait finalement des subsides que par l'intermédiaire de ces directions régionales des activités culturelles, mais régionales, et puis voilà. Et le théâtre de rue, ça n'existe pas pour le ministère de la Culture, a priori.
Non, effectivement, ça a été un
combat.
Et le combat continue.
Exactement.
Donc combat à tout niveau. Parce que, bon, effectivement, alors on parle ici, on parle à Morlaix beaucoup de théâtre de rue, d'ailleurs, c'est dans le titre. Hein. Mmh. Donc ça, c'est la filière de ces artistes qui ont décidé, comme Royal ou Opposito ou Générique Vapeur, hein, d'aller porter le spectacle au plus près des habitants, un choix de leur part. Et en ce temps-là, effectivement, ça pouvait toujours être considéré comme la rue étant une étape vers l'intérieur. Donc toute cette mentalité, il en a fallu du temps, il en a fallu de la persévérance, et il a fallu aussi pour nous, on aime bien le terme passeur, puisqu'on n'a pas, voilà, ni Michel ni moi de production artistique, on va créer les conditions pour que ces artistes qui ont choisi l'espace public puissent rencontrer la population. Mais les passeurs, nous, dans notre cas, on ne serait rien sans la volonté politique des élus, des collectivités. Parce que, bien sûr, on a aussi le théâtre de rue à son économie. Ça ne peut être que le fruit d'une volonté. Et c'est ainsi, d'ailleurs, que aussi le Fourneau dit de Brest est arrivé à Morlaix. C'est sur la double volonté des passeurs de l'époque. Hein, dont Jean Guidel, journaliste bien connu dans la région, qui était président de l'association des mordus du théâtre de rue en Morlaix, de Morlaix, et puis et des élus morlaisiens de l'époque, donc Marie-Lise Lebranchy qui était maire de Morlaix. ce sont eux, c'est eux ensemble qui sont venus vers le fourneau pour nous demander une participation, une collaboration.
D'accord.
Et puis, on a répondu à la demande. Aujourd'hui, on y est encore 14 ans après.
Alors aujourd'hui, le phare, c'est 3 jours, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu aussi une évolution, parce qu'on se rappelle que c'était plutôt le mercredi qu'on venait à Morlaix.
Tout à fait. Donc aujourd'hui, l'évolution, les mercredis donc existent, hein, puisque ce sont, c'est donc la municipalité, donc la ville de Morlaix qui organise aujourd'hui des animations le mercredi, et le festival lui est regroupé sur 3 jours, un festival nationalement repéré, avec 18 compagnies qui viennent cette année, par exemple, présenter leur création sur Morlaix et qui vont les jouer plusieurs fois. Donc ça a été une évolution importante aussi pour que notre partenaire Morlaix Communauté s'associe à cette histoire de théâtre de rue en pays de Morlaix, d'autant plus que au mois de mai, on va donc dans les villes et communes alentours, sur les 28 villes et communes alentours, avec également des spectacles de rue. Donc le tout aujourd'hui, c'est le théâtre de rue en pays de Morlaix, c'est le mai avec les résidences et aussi donc des compagnies qui vont travailler dans les communes, et ces dates chaque dimanche ou voilà, et puis un temps fort sur la ville centre donc en août.
Alors il y a aussi, il faut le dire, hein, en dehors du fait qu'il y ait ces 3 jours mercredi, jeudi, vendredi, où il y a depuis le début, milieu d'après-midi on va dire, jusqu'à tard le soir, vraiment une ribambelle de spectacles un peu dans plein un lieu, on peut essayer de décrire ça auprès des gens qui ne connaissent pas Morlaix. Morlaix est une ville très très encaissée, qui donne sur un port, qui donne sur une rivière, et il y a plein de petites places, il y a des ruelles un peu moyenâgeuses, typiques, dans lesquelles vont s'installer sur des places, à droite et à gauche, des compagnies de rue, et puis pas seulement, puisqu'il y a aussi le théâtre, je crois, de Morlaix, qui est investi l'année dernière, il est encore cette année, je pense.
Alors, non, là, tu abordes un sujet qui fâche, le théâtre de Morlaix, mais aussi, on est là, et le théâtre de rue révèle les sujets qui fâchent.
Ah ouais.
Hein, donc, non seulement le fourneau, mais un bon nombre d'acteurs et de structures culturelles morlaisiennes regrettent cette décision de la municipalité concernant ce théâtre.
Ah bon, ils vous ont dit non, le théâtre, cette année,
non, le théâtre
pas
est fermé.
Il est fermé,
c'est
fermé actuellement.
Il n'a plus de directeur. Et donc, il y a une nouvelle association qui va se payer, qui est au pied du mur. Et c'est vraiment un sujet fâcheux.
Ah bon. Il y avait le théâtre et l'arbre aussi qui est enfermé. C'est ça.
L'arbre, ça, oui.
Il y a les deux sujets fâcheux de Morlaix.
Donc, effectivement, c'est essentiellement, non, c'est uniquement sur l'espace.
Dans la rue, cette fois-ci.
D'accord.
Voilà, donc il y aura un spectacle sur la place de l'Entracte, donc en face du théâtre.
Du théâtre.
Oui.
On peut d'ailleurs conseiller aux gens de se balader dans toutes ces ruelles, effectivement, oui, de se lancer dans la ville et puis de partir à la découverte de la ville, et hop, ils tomberont sur un spectacle, forcément.
Exactement. Alors ça, c'est intéressant. Il y a deux domaines que je voulais aborder quand même pour finir avec vous, Claude et Michel, Michel Bosseur et Claude Morizur. Donc c'est le fait que bon, il y a ces spectacles, mais il y a aussi vous organisez des rencontres entre les passeurs dont vous parliez tout de suite, les passeurs, les municipaux, oui, les institutionnels, les gens de la région, les gens des villes, les élus, on va dire, on appelle ça comme ça, des élus, les artistes et effectivement donc les programmateurs ou des gens en tout cas qui font partie notamment de la Fédération des Arts de la Rue, des gens comme ça. Donc vous avez organisé des réunions, et tout à l'heure, enfin demain je crois,
oui,
il y aura une réunion ici même dans l'école dont on a donné le nom, un rappelable tout à l'heure, il y aura une réunion donc de ces professionnels de la rue pour encore se reposer des questions et continuer d'avancer sur ces dossiers.
Alors d'abord, il faut dire que le phare de cette année est encore plus sous le drapeau européen, puisqu'on accueille 5 compagnies donc d'Angleterre.
C'est
sous le
nom
ZEPA, Zone Européenne de Projet Artistique. Tous nos partenaires de France et d'Angleterre seront présents sur ces 3 jours. Et donc demain matin, il y a une rencontre européenne, parce qu'on a souhaité aborder une discussion sur la mobilité artistique et se poser la question pour savoir si c'est vraiment un levier pour une citoyenneté européenne. Et pour nous, voilà, c'est important un petit peu de discuter discuter tout ça, de voir comment est-ce que on passe les frontières, est-ce qu'il y a des frontières encore, bon ben voilà. Donc toutes ces questions-là vont être abordées demain, et c'est donc à Morlaix Communauté la rencontre.
Pas ici, c'est pas ici, c'est à 10h10. Hein.
Voilà, à 10h10.
Et on en parle aussi sur les ondes, puisque c'est non seulement elles sont professionnelles, mais elles sont aussi citoyennes. Parce que c'est vraiment une des caractéristiques de ce théâtre de rue de supprimer les barrières et de mettre en contact, on disait tout à l'heure, les artistes et les habitants, mais aussi tous ceux qui font la vie culturelle. Donc que les auditeurs aussi se sentent invités aux trois rencontres.
Oui, parce qu'il y a donc cette rencontre européenne qui a lieu demain à 10h10. Ensuite, il y a un forum républicain l'après-midi, mais là, cette fois-ci, ce sera à l'école.
Ce sera ici à l'école.
Alors, le thème, il est d'importance. On parle de mobilisation sur la place de la culture dans la réforme générale des politiques et des collectivités territoriales. C'est un sujet brûlant d'actualité.
Tout à fait.
Et donc, on a réuni, nos principaux intervenants, donc le président de la Fédération nationale des arts de la rue, Pierre Prévost, qui sera aussi à côté de la radio.
Qu'on retrouvera nous vendredi, effectivement.
En fil rouge.
On a aussi François Le Pilouer, qui est donc président national du Syndéac, en même temps directeur du TNB, connu en Bretagne. C'est important. Et puis c'est pas anecdotique de voir à la même table de discussion le Syndéac et la Fédération des Arts de la Rue, avec aussi
ça a fini en baston ça.
En tout cas, ça finit pour le moment dans la rue ensemble. C'est ce qu'on fait à la Pointe de Bretagne, notamment à Brest, on a eu une manifestation importante en juin sur le parvis du Quartz. On est ensemble et ben voilà, ce sera l'un des pourquoi, etc. Et qu'effectivement tout le secteur culturel, du plus petit au plus gros, est dans le collimateur de ceux qui nous gouvernent aller très vite. Et on aura aussi donc Jean-Michel Le Boulanger, vice-président de la région Bretagne, vice-président de culture, qui est l'interlocuteur de toutes les structures culturelles de Bretagne. Et pour ne parler que d'eux, mais également Jean-Luc Fichet, qui est sénateur, membre de la commission culture du Sénat. On aura des gens du Conseil général, etc. Où on en est, quelle est la place de la culture dans cette société, et comment on organise les financements publics de cette culture. Parce que là, si on continue comme ça, on va droit dans le mur, malheureusement, comme on a pu le constater d'ailleurs auprès de nos partenaires anglais.
Une restriction, on va dire, des subsides du gouvernement pour certains domaines culturels.
Voilà, là, c'est pas que du gouvernement, c'est en général, parce que. En tout cas, je veux dire du ministère de la Culture. Enfin, nous, on veut vraiment que ce ministère de la Culture perdure. Pour nous, c'est extrêmement important. Et l'autre chose, c'est les difficultés dans lesquelles sont les collectivités locales font que la culture est malheureusement souvent une variable d'ajustement, et que tout ce qui est un petit peu autour, ça commence à devenir difficile pour tout le monde. Et ce qui amène à se poser la question vraiment de la place de la culture dans la société.
C'est vrai qu'effectivement,
c'est-à-dire le lien, est-ce qu'elle est créatrice de liens, qu'est-ce que ça veut dire, c'est tout ça qui est c'est important. C'est pas juste, comme on disait avant, c'est pas un supplément d'âme, c'est vraiment c'est important de se poser toutes ces questions là et à quelque niveau que ce soit. C'est pas le gouvernement diminue, c'est pas ça, c'est un ensemble qui fait que on est aujourd'hui dans une réalité qui fait que
Peut-être qu'on pourrait effectivement mettre en relation, les gens qui décident, les institutions régionales, générales, les gens qui décident à un niveau national, voire international, sur le fait que je pense que l'Association des commerçants de Morlaix est bien contente qu'il existe un festival des arts de la rue en début août.
On va aussi, au cours de ce forum républicain, dépasser les notions uniquement comptables. Oui. On ne va pas parler de chiffres et de cette...
Certains, il n'y a que ça qui cause aussi, c'est ça que je veux dire.
Oui, mais ce n'est pas forcément là où est le débat.
Non, parce que là, en l'occurrence, l'occurrence, nous, on n'a rien à vendre. Hein, on a des émotions artistiques à faire partager et c'est bien plus essentiel que...
Encore une fois, je le redis, pour certains, ça ne parle pas. Quoi. Les émotions artistiques,
aussi,
rien à foutre.
Qui prend la...
Non mais voilà, je me fais l'avocat du diable, effectivement.
Basé sur la consommation.
Non mais, alors, le phare de Morlaix, en chiffres, c'est quoi hein. Mais j'imaginais, le président de l'UMP, c'est ça, quoi. Je veux dire, qui l'intéresse. Le reste, il s'en cogne. Quoi.
Mais nous tu vas faire fuir les auditeurs s'ils veulent aller demain au Forum Républicain si tu commences à leur parler les chiffres, c'est
noir.
À
noter quand même, si, un dernier mot, les spectacles sont gratuits, il me semble.
Oui.
Ah,
L'accès,
les spectacles sont tous.
N'allons pas dire à un auteur que son spectacle est gratuit.
Ah oui, d'accord.
Il y a toujours une attention qui se...
Oui, l'accès des spectacles est gratuit. Et il y a une troisième rencontre qui, pour nous, est également importante, parce que c'est la première fois qu'on l'organise comme telle. C'est vendredi matin, et il y a une rencontre publique donc sur la place Allende sous notre petit chapiteau Zepa entre les auteurs de ces spectacles et les spectateurs. Donc c'est vraiment ouvert à tous et voilà, ce sera un moment aussi d'échange, de convivialité, de discussion autour de la page blanche et de l'écriture artistique dans l'espace public.
Alors Michel et Claude, on espère que vous allez revenir, vous allez passer effectivement, prendre un micro, venir nous voir au fur et à mesure comment se déroulaient ces émissions, ces trois émissions. Et puis on va peut-être écouter un morceau de musique avant d'accueillir l'invité suivant
qui s'appelle Luc Amoureux, qui attend avec patience et qui a l'air très intéressé par la conversation qu'on vient d'avoir. Du pognon, on veut... Non, c'est un petit peu ça, du pognon. Merci
Claude. Je savais que Canabé était vénal.
Merci
comme radio.
Michel, à plus tard.
Merci beaucoup.
À l'envers, ça fait...
Super, non?
Canal B, c'est chouette.
We'll be right back.
la fanfare du Belgistan. Je pense qu'elle aurait pu faire partie de la programmation musicale du Festival des Arts de la rue de Morlaix, mais en fait, ils sont présents au bout du monde, au Festival de Crozon. Je rappelle quand même aux auditeurs que nous poserons notre petit plateau Canal B Mutine aussi à Crozon.
En direct hein, du Fort de Landaudet, comme tous les ans. Et là, ça sera à partir de vendredi, mais on en reparlera plus tard, parce que là, on a un invité. Il s'agit de Luc Amoros. Alors, Luc Amoros, pour savoir ce qu'il fait... On va d'abord lui dire bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Et puis si vous vous baladez dans Morlaix, si vous constatez que du côté de la place Allende, il y a un grand échafaudage, eh bien c'est la place où se trouve Luc Amoros.
Eh oui, parce qu'il fallait la ravaler, cette place. Donc, ça fait un moment qu'on nous attend pour la ravaler. On a installé notre échafaudage et on va s'y employer dès ce soir.
Alors le spectacle s'appelle Page Blanche.
C'est ça.
Et il va se passer quoi?
Eh ben, oh là là, page blanche, quelle question, justement, c'est la
parce
question.
Qu'on peut tout écrire à partir d'une page blanche.
N'importe quel créateur tremble d'avance à savoir comment la remplir, cette page blanche. Voilà, on va se poser la question avec les spectateurs qui voudront bien nous rejoindre, comment remplir une page blanche.
Parce que les spectateurs participent.
Pour moi, le spectacle se fait nécessairement à la conjonction des regards des artistes et du spectateur. Sans les spectateurs, on aurait beau dérouler nos pages blanches, rien ne se passerait.
C'est vrai. Parce qu'a priori, moi, j'avais cru comprendre, je me fais encore une fois l'avocat du diable, je vais retaper dessus, mais tant pis, que d'habitude, l'artiste art, si on peut dire Arte, et le spectateur spectacle.
oui.
Chacun son rôle.
Bah, oui, mais c'est possible aussi, à vrai d'habitude. Dire. Si aucune émotion ne sourd de nos pages, évidemment, le spectateur restera sur le coin de la place. Oui. Mais bon,
vous avez un autre choix. Là.
Oui, enfin, c'est-à-dire qu'on s'emploie toujours à créer une émotion d'abord, je pense, plutôt sensuelle. Sensitive avant de nous exprimer réellement. Je pense que Page Blanche fait partie de ces spectacles-là qui doivent d'abord faire appel au corps avant l'esprit.
Alors ça veut dire comment que ça va se passer concrètement? Vous allez remplir petit à petit, vous allez lancer des choses, les spectateurs vont intervenir et sur ces interventions vous réagirez?
Oui, alors sur le spectacle, le sous-titre du spectacle c'est Chroniques enluminées. Alors Chroniques enluminées, à savoir des chroniques que j'ai choisies moi-même parmi les chroniques que j'écris régulièrement indépendamment d'une affectation à quelque spectacle que ce soit, et enluminées parce que ce sont des peintres auxquels j'ai confié ces chroniques écrites, hein, et qui vont donc les mettre en peinture et les mettre en musique. Voilà, alors ces chroniques-là, je ne vais pas trop en parler, parce que ce serait déflorer le sujet, mais le principe du spectacle, c'est ça. Des chroniques écrites confiées à des peintres chanteurs qui vont les mettre en
des peinture. Des peintres chanteurs.
Oui, alors c'est la distribution qui a été difficile, enfin non, c'était a priori difficile. En fait, il s'est avéré que beaucoup de nos peintres sortis de nos écoles de peinture, ils savent aussi faire de la musique et notamment chanter. Alors sur les 80 ou quelques peintres qui ont postulé à notre...
Tu as fait un casting, Luc Amoros.
Ah oui, un casting, oui, comme d'habitude, oui. Ouais. Et là, c'était...
80 personnes sont venues,
se sont proposées. Se sont prêtées au jeu de nos exercices, à la fois de peinture et de chant avec notre compositeur. Et il se trouve que le choix était quand même assez difficile, puisqu'on a trouvé beaucoup de gens très compétents.
Carrément.
Parmi les jeunes Européens d'aujourd'hui.
Alors c'est ça que je voulais intervenir, c'est un spectacle européen, ça. C'est-à-dire que y a pas que des Français dans la bande.
Oui, non. L'idée, c'était effectivement qu'aujourd'hui, comment faire appel à des jeunes artistes sans aller au-delà de nos vieilles frontières. Ça aurait été un petit peu ridicule, puisque je n'avais encore une fois que comme objectif de trouver des peintres chanteurs. Donc les peintres chanteurs, on pourrait les trouver dans le monde entier. Évidemment, on a limité à l'Europe, notre petite Europe, parce que là, c'est pour des questions après de difficultés, d'argent, de production. Mais il y a une Autrichienne, un Belge, quelques Parisiens et aussi, alors là, on a été très audacieux, des Alsaciens.
Des Alsaciens, mon Dieu. Ça aurait pu être pire, on aurait pu prendre des Bretons.
On aurait pu tomber sur des Bretons, en effet. Oui, ouais.
C'est moins pire que les Rénois. Hein.
Alors, des peintres chanteurs, il y en a combien?
Alors, ils sont six. Ils sont six à se partager les neuf cases.
Ça tombe bien, il y a neuf cases.
C'est vrai que ça fait un peu Académie des neuf, ces cases. Mais
oui, j'espère qu'on va dépasser cette petite division-là.
On a les références qu'on peut.
Oui, on a les références qu'on peut, effectivement. Mais c'est bon, dans un certain aspect, c'est assez ludique aussi.
Oui,
hein. Donc, on ne refuse pas cette analogie.
Alors, c'est marrant parce que c'est marqué spectacle monumental de Strasbourg. Oui, ça alors, fait peur un peu.
Oui, bon, monumental, parce qu'en effet, un échafaudage se doit d'être monumental par définition, hein, puisqu'il est censé ravaler les monuments. Et donc là, au milieu de la place Allende, je pense qu'il ne devrait pas déparer.
D'accord.
Alors c'est une création récente, est-ce que ça a déjà été joué ou est-ce que ce soir c'est le coup d'essai ?
Non, on a honoré nos principaux producteurs à Linz, c'était en Autriche, c'était Linz Capitale Européenne 2009, qui a principalement produit. Quand je dis principalement, on a des coproducteurs, dont le Fourneau, évidemment, qui nous invite. Hein, comme d'habitude, j'allais dire, après nous avoir aidé à monter la production du spectacle et nous faire résider, nous invite au Phare de Morlaix à jouer. Donc, on a joué quelques représentations l'année dernière pour honorer notre producteur autrichien. Et puis, cette année, c'est le vrai lancement du spectacle en France. Là, on a commencé au mois de mai, quelques dates. Et voilà, pour...
Alors, moi, j'ai envie de donner un peu la parole à Aurélien, qui fait partie de l'organisation du Phare, de la structure du Fourneau, qui s'occupe de la communication sur tout ce que fait le Fourneau en général. Et alors, toi, tu vas être un petit peu le fil rouge de cette émission. Demain, nous aurons Thierry Laurent, ex-président de la Fédération nationale des arts de la rue. Après-demain, nous aurons Pierre Prévost, le nouveau président. Et donc, toi, Aurélien, tu as vu le spectacle de Lucas Moreau, est-ce que tu peux nous le décrire, nous en parler, nous donner peut-être ta version à toi ?
La version du spectateur.
Voilà.
Ma version du spectacle. C'est vrai que c'est difficile.
Et on va voir quelle tête il fait.
C'est vraiment un spectacle qui est difficile à définir, si ce n'est par tous les arts qu'il met en scène, en mouvement, en musique, en même temps. Tous ces arts-là au service d'une image, d'une histoire racontée à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un lieu. C'est vraiment. Moi, je l'ai vu. En fait, je l'ai pas revu. Je l'ai croisé un peu partout cet été sur les festivals, parce que je l'ai croisé à Noisy sur le festival ici et ailleurs. Ils étaient donc à Chalon-sur-Saône, à Chalon dans la rue il y a quelques semaines où j'y étais. Mais j'attendais de le voir Place Allende. J'avais envie de le revoir, je l'avais vu à la création, et là je voulais le revoir à Morlaix, sur nos terres, je dirais. Voilà, je suis vraiment impatient de le voir Place Allende. Luc parlait de l'accompagnement du Fourneau, et je me suis amusé sur notre site à regarder ce qu'on a sur la compagnie Lucas Moreau. Donc on voit une résidence donc au Fourneau à Brest en 2000 pour la création de 360 degrés à l'ombre, puisque la compagnie Lucas Moreau, ça n'est pas à ses premiers actes artistiques à Morlaix et en Pointe-Bretagne. Donc en 2000 avec 360 degrés à l'ombre, il y aura ensuite 361 degrés qui sera joué au Phare en l'an 2000, qui a été joué donc à Morlaix en l'an 2000. Ils sont revenus en 2002 aussi au Phare, aux Vieilles Charrues en 2003. La dernière création qu'on avait accompagnée avant Page Blanche, c'était l'Éternel Tournage. Donc ça, c'était il y a 2 ans à Morlaix. On s'en rappelle de cette adaptation cinémato-théâtrale du mythe de Tristan et Iseult. C'était dans la cour de la manufacture. C'était il y a 2 ans, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'en rappellent de ce spectacle. Voilà, c'est une histoire aussi qui depuis 10 ans avec cette compagnie Lucas Moreau, avec Luc. C'est vrai c'est une compagnie qu'on apprécie beaucoup et dont on suit. Le travail.
Je crois que t'as oublié, je leur construisais des labyrinthes aussi, il me semble. Oui, moi, exact. J'ai beaucoup aimé.
Exact, tout à fait, qu'on a accueilli.
C'était dans le cadre du Brestival.
Dans le cadre du Brestival, sur un spectacle plus pour jeune enfant. Public.
Pour adultes aussi, parce que moi j'ai beaucoup aimé déambuler dans les cartons. J'aurais rêvé qu'effectivement mon père me fasse un tel labyrinthe quand j'étais petite.
C'était une petite exception, et encore, parce qu'on a un grand projet avec ce labyrinthe qui était destiné a priori aux salles, parce que bon, c'est quand même un labyrinthe de carton. Nous avons un projet de le faire peut-être rejoindre dans sa sinuosité, les sinuosités de la rue. Voilà, mais ça c'est encore un secret.
Et sans dévoiler quoi que ce soit, on peut imaginer que dans les mois à venir, cette page blanche soit vers le pays de Brest. Voilà, sans dire exactement où et quand, mais vous le saurez bientôt, que cette page blanche va encore circuler en Pointe-Bretagne, et on a envie de le montrer au plus grand nombre.
Alors, j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que je ressens à vous écouter, que finalement, la compagnie Lucas Moreau s'intéresse à des choses ludiques. Tu as utilisé ce terme tout à l'heure. Donc, on joue, finalement. Donc, il y a un petit côté un peu retour vers l'enfance, quelque chose comme ça.
Oui, pas nécessairement retour vers l'enfance, parce que je pense ne l'avoir jamais quitté. En tout cas, dans sa magie et ses aspects, justement, les plus
imaginatifs, peut-être.
Voilà, et les plus excitants. Non, le jeu, oui, c'est important. Bien sûr. D'ailleurs, en français, c'est pas le cas dans toutes les langues. Hein. J'avais constaté ça que le terme jouer se dit dans les deux sens, à savoir jouer comme un enfant et jouer comme un comédien.
En anglais, ça marche, je pense.
Même pas play, vraiment. Oui, même pas tout à fait. Oui, on l'utilise aussi, mais on utilise perform pour jouer comme un acteur. Et dans d'autres langues aussi. Il y en a quelques-unes. Mais le français joue sur cette coïncidence et on s'en est jamais plaint.
Et c'est un petit peu sur ce truc-là, finalement, que tu dis, mais bon sang, mais jouer, quoi.
Oui, tout à fait. Quand on joue, on doit jouer. Donc, la question que vous posiez tout à l'heure sur le spectateur, s'il ne joue pas avec nous, on n'a pas grande chance de le rejoindre.
D'accord.
C'est un spectacle qui a évolué, finalement, déjà, à partir des premières représentations que vous avez faites, à celles qu'on va voir ce soir, demain ou après-demain.
Page blanche. Oui, il a déjà perdu presque 10 minutes par rapport à la première l'année dernière.
Ah bon?
Ça veut dire, pour nous, en ce qui nous concerne, c'est comment?
Il a perdu, mais du coup, il a gagné.
Ah oui, bien sûr, il a gagné en dynamique, en rythme.
Intensité.
Oui, disons que c'est parlant pour nous quand on perd 10 minutes. On ne devrait pas dire perdre 10 minutes, on devrait dire gagner 10 minutes. Oui. Bon, parce que ça, c'est une question un peu triviale, un peu de temps, mais il a bien sûr gagné en densité. La différence entre les traitements, le traitement de la peinture, le traitement du chant, se voit à l'œil nu. Pour moi, évidemment, qui voit l'évolution. Le spectateur ne peut pas voir de différence s'il n'en voit qu'une, une représentation. J'espère simplement qu'on ait envie de le revoir, même si on n'en a pas l'occasion, mais qu'on ait envie de le revoir. C'est un sentiment que j'aime bien de la part des spectateurs, parce que ça veut dire qu'on a...
On a pris du recul.
Oui, c'est-à-dire qu'on a envie justement de prendre en considération certains aspects qui nous ont échappé, parce que généralement les choses qu'on fait nous sont dans l'énergie, dans la dynamique. C'est très rare comme ça qu'on ait des temps morts. On nous le reproche de temps en temps d'ailleurs. C'est pour ça que je disais qu'on parlait au corps avant l'esprit. Parce qu'on parle au corps, parce qu'on essaye de rentrer dans la dynamique comme ça du mouvement du corps et l'esprit. Je pense que c'est jamais trop de deux représentations pour bien saisir ce qu'on a pu vouloir dire, mais ça n'a pas d'importance si on ne saisit pas non plus tout ce qu'on a voulu dire. Hein. Voilà.
Contrairement à d'autres spectacles, j'ai envie de dire, la compagnie Lucas Moreau, avec ce spectacle, donc Page Blanche, il y a de l'art plastique, donc ça veut dire qu'il reste des choses à la fin. Il reste des toiles.
C'est une bonne question. Non, il reste rien parce que la page blanche, c'est au début le problème de tous les créateurs, comme je le disais. Hein. Et puis chez nous, on aime bien que la page blanche s'efface aussi pour laisser la place immédiatement à la séance suivante. Quoi.
On peut pas garder. On garde rien du
spectacle.
Mais
on va pas le dire ça parce que sinon, il y a un truc. On empêcherait les spectateurs de désirer prendre des choses. Oui.
Mais
surtout d'acheter, j'allais dire, oui.
Ouais, plutôt.
On aimerait bien monter une foire d'art, une foire vraiment commerciale à la fin d'art, pour constater que les spectateurs seraient bien embêtés, quoi, avec ce qui leur reste. Ouais.
Ah, il y a donc une surprise.
Moi, j'avais une question pour Luc. C'est vrai que pour avoir vu Luc et la compagnie, les artistes régulièrement en résidence, je voulais justement demander à Luc comment ça se passe pour quand on constitue une équipe comme ça, avec des gens qui viennent d'horizons différents, comment on met les gens dans un projet, comment ça se passe. Il y a des équipes qui sont différentes des spectacles précédents, des nouveaux, etc. On sent qu'il y a vraiment une organisation qui se fait, un rôle. Quel est ton rôle, toi? Comment tu le ressens par rapport à cette équipe qui se constitue autour d'un projet?
C'est difficile à expliquer. Enfin, ce qui est certain, c'est qu'on intéresse, évidemment, quand on invite une équipe à travailler, on l'intéresse à ce qui s'est fait avant. ce qui historique s'est fait
pendant, de la compagnie est important aussi pour
oui bien sûr. Ah oui, bon, il s'agit pas de leur donner des cours d'histoire, hein, sur notre parcours, mais je crois que naturellement, c'est-à-dire ce qui est le plus étonnant toujours pour les équipes qui viennent nous rejoindre, quelles qu'elles soient, c'est ce qu'on leur demande, quoi. C'est tellement décalé par rapport à ce qu'ils connaissent, qu'ils s'intéressent d'eux-mêmes à ce qu'on a pu faire et au pourquoi. Donc je pense que l'intégration des artistes dans notre équipe se fait de cette façon-là, par étonnement.
C'est vrai que tu as souvent des demandes pointues, parce que là, on parlait d'être peintre et chanteur en même temps. L'éternel tournage, c'était de pouvoir jouer et d'avoir ces acteurs qui sont en train de jouer physiquement vraiment la scène, qui soient filmés et remontés en direct avec des effets spéciaux réalisés en direct. Donc techniquement aussi, c'était une demande qui était quand même assez pointue.
Oui, bon, ce qui nous caractérise plus que l'idée du pointu, c'est au dire de certains comédiens de chez nous, hein, parce que moi j'ai difficilement du recul là-dessus. Ce qui nous fait notre caractéristique, c'est qu'on demande ce que je demande généralement aux gens de faire ce qu'ils ne savent pas faire, quoi.
C'est bien sympa, c'est bien ça pour le directeur artistique, sympa.
Voilà, c'est sans doute ça qui doit donner ce côté un peu.
J'ai passé 20 ans à apprendre à danser, il me demande de faire des marionnettes.
Alors, pour 360, cool, que tu évoquais tout à l'heure, j'ai demandé à des comédiens de théâtre de faire de la peinture sur scène. Là, c'est le contraire. J'ai demandé à des plasticiens qui n'avaient jamais mis les pieds sur un plateau de même s'ils peignent et chantent ce qu'ils savent faire, mais ils sont en représentation malgré tout. Donc, ils deviennent comédiens par la force des choses.
Comment ils ont réagi ?
Eh bien, lentement, comme tout le monde, mais sûrement, on va dire.
Comment tu réussis à le convaincre, justement ?
Parce que 80,
tu leur
tout
fais
à l'heure, postulant...
Tu les saoules, tu fais comment ?
Non, ça va tout seul, ça va tout seul. On réfléchit ensemble. Le spectacle, c'est pas moi qui... Encore une fois, moi, j'ai amené les chroniques, je leur ai dit, voilà, il s'agit... Et encore, peut-être pas nécessairement de les traduire tout de suite, mais peut-être, pourquoi pas, de les amender au fur et à mesure de vos propositions. Donc, on a rarement quelque chose au début qui reste et qui reste à la fin intact. Les choses changent, y compris ce que moi j'y amène au départ. Et c'est un travail collectif.
Ça évolue en groupe. Bah, Lucas Moros, on vous retrouve le spectacle sur la place Allende ce soir, jeudi soir et vendredi soir. Donc aucune raison pour le louper. À partir de 22h32, c'est gratuit, bien évidemment. Et ça va être une belle page blanche qui va se colorer progressivement.
À ne pas louper.
Venez nombreux.
Alors effectivement, c'est intéressant tout ça. J'ai juste envie de meubler deux petites secondes, le temps de trouver un morceau pour enchaîner avec la compagnie.
Oublié, la
je voulais juste demander une dernière question. Tiens, ça m'arrangerait.
Justement, je voulais juste demander à Luc combien l'équipe. Là, du coup, c'est combien de personnes l'équipe Lucas Moros, là, qui est arrivée sur Morlaix ?
Là, qui est arrivée sur Morlaix, ça doit être 12-13 personnes. Il y a 4 personnes à la technique pour derrière, qui sont dans l'ombre. 6 artistes peintres sur l'échafaudage. Un musicien dont on n'a pas parlé, qui est un peu le chef d'orchestre à sa contrebasse, qui, par définition, est en contrebas de l'échafaudage.
Oh.
Et puis, oui, elle est bonne, celle-là. Et puis, voilà. Et puis, Brigitte Gonzalez, qui dirige les acteurs. Parce que là, je suis totalement incapable de faire ça. Moi, une fois le spectacle fini, de les dynamiser, ne serait-ce que pour leur présence sur scène. N'oublions pas que ce sont des peintres chanteurs qui n'ont jamais mis les pieds sur une scène.
Et ils doivent effectivement être.
Ils ont un coach, c'est un très mauvais, très pas joli mot. Hein.
Ah oh, la vache, coach, oui.
Pas joli mot.
Directeur artistique, direction voilà, d'acteur, voilà. Peut-être plutôt. Pour terminer, une dernière question. Il y a des sons finalement qui sont enregistrés, qui restent un petit peu des chansons.
Chez nous, jamais rien.
Il n'y a rien qui reste.
Jamais, ni en musique, ni en image.
Tout reste éphémère.
Toujours
oh là là.
Et de l'éphémère.
C'est frustrant. Hein. Bon, on ne pourra pas souligner votre intervention, Lucas Moros, avec un petit morceau de musique.
Tu parlais de la contrebasse et il y a un contrebassiste qui a rigolé juste à côté. Donc c'est Hervé de la compagnie Bilbo Basso. Voilà, ça fait une transition. Hein,
exactement.
Ça s'appelle. Hein.
On pourrait
c'est
comme faire
ça
une bataille de contrebasse sur les spectacles.
On écoute justement un petit extrait du spectacle de Bilbo Basso parce qu'il y a beaucoup de musique chez Bilbo Basso. Merci Lucas Moros.
Merci.
Rendez-vous tout
ce soir, 22h32, place Allende. Ce soir, demain soir, vendredi soir.
Thank you.
Tango, tango, et oui, c'est un peu comme ça qu'on pourrait définir le style musical lié au spectacle de Bilbo Basso, une compagnie qui nous vient du Doubs, n'est-ce pas, puisque c'est de Besançon, dans le département numéro 25.
2-5.
Hein, dans le 2-5, c'est ça, c'est là-bas qu'ils ont créé ce spectacle intitulé Polar. Ils sont 5 sur scène, mais c'est toute une équipe aussi de techniciens derrière. Il y a beaucoup d'éclairage, il y a du son. Bah, on l'a vu en tout cas hier soir, nous, qui en avait des techniciens et qui galéraient un peu parce que, bah, hier soir, ils ont fait la générale avant, en préambule à l'ouverture du festival des arts de la rue de Morlaix. Je vous rappelle qu'on est quand même en direct depuis Morlaix. C'est sur ça, Mutine, hein. Et sur Canal B à Rennes et Mutine à Brest. Et puis, bah, alors, il y a plusieurs comédiens. Il y a Delphine qui est avec nous. Il y a aussi Hervé à la contrebasse et à la danse.
Hervé,
alors là, il est à 3 km du micro. Il dit non, je ne veux pas parler, j'ai peur.
Si, il va falloir parler.
Mais il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Il y a aussi Johanna qui chante et qui danse. Il y a Patrice qui danse aussi, il y a Catherine qui joue du piano divinement bien. Hervé, toi aussi, tu joues très très bien la contrebasse. Ah, si, il joue très bien la contrebasse. D'ailleurs, j'étais là, moi, finalement, ils devaient démarrer à 22h30, ils ont démarré qu'à 23h10-15, on a attendu 3 quarts d'heure sous la pluie, et je voyais la contrebasse
sous la bruine.
Qui attendait aussi sous la pluie. J'étais là, mon Dieu, une contrebasse sous la pluie, c'est pas possible, on n'a pas le droit de lui faire ça. Et d'ailleurs, quand il est arrivé, Hervé, il a sorti un chiffon, il a nettoyé ses cordes, enfin, il a séché ses cordes pour pouvoir aligner les notes à peu près correctement. Ça ne devait pas être évident du tout pour vous, pour toute l'équipe de techniciens, on l'a dit, qui galéraient un petit peu, il fallait débâcher, rebâcher, redébâcher, rebâcher, vérifier que tout fonctionne. Et puis surtout, il faut le savoir, la compagnie donc, Bilbo Basso joue avec le feu. Et quand la pluie, enfin l'eau et le feu en général, ça ne va pas très très bien ensemble. Donc c'était encore une autre des, peut-être j'ai envie de dire, pas des frustrations, mais des complications liées à la générale d'hier soir. Delphine, bonjour.
Bonjour.
Tu es là, tu es avec nous, tu parles dans le micro rouge, te rapproche-toi bien. Il y a aussi Hervé qui ne veut pas se rapprocher de son micro, mais peut-être que finalement, si je lui pose une ou deux questions, si je l'énerve un peu, il viendra peut-être se rapprocher du micro. Spectacle hier soir, vous en avez chié un petit peu peut-être.
Voilà, on peut dire ça. Après, c'est le but d'une générale. On dit qu'on y condense tous les problèmes, tous les petits tracas. Ils sont tous, ils ont tous lieu le jour de la générale. Et comme ça, après, toute la série de présentations, c'est la perfection.
D'accord, c'est à ça que ça sert, mais ça marche jamais comme ça en vrai.
Et c'est ce qui se passe à chaque fois.
Si, ah, d'accord.
Ouais, ouais.
Ok, t'as raison, on y croit. Je te rappelle qu'on est à Morlaix, mais bon. Bon, alors, un spectacle, vous jouez avec le feu aussi, c'est normal qu'il vous arrive des problèmes.
Oui, bon, après, on joue avec le feu. Alors, comment dire ?
Est-ce que c'est vrai, vous jouez avec le feu ?
Oui, on joue avec le feu. Une grande partie de notre spectacle est basée sur ce rapport très, très proximal qu'on a avec le feu, très original. Et bon, pour arriver à ce point-là, il y a eu pas mal de petites brûlures, de choses comme ça, mais... Après, on est à un point où ce qu'on fait est maîtrisé et je veux dire, maintenant, c'est pas normal.
Vous êtes les meilleurs clients de la pharmacie en matière de biafine, je suppose.
Eh ben, ça va peut-être vous étonner, mais non.
Vous ne brûlez plus.
D'une part, on se brûle peu et puis, bon, d'autre part, on a d'autres petits trucs... Pour soigner nos petits bobos.
Allez, vas-y, dis-les, c'est quoi le petit truc pour soigner les bobos quand vous sortez d'un spectacle? Petit détail croustillant.
On a la lavande aspi qui est très bien pour les
La lavande
aspi, voilà.
C'est vrai, ça marche.
Oui, c'est vrai. Et après, on a d'autres encore mixtures, mais bon, je vais peut-être pas vous parler de ça comme ça. Là, ça.
Alors, c'est un spectacle qui commence par un crime.
Voilà, alors dans ce spectacle, on est parti, nous, sur le thème du polar et on développe une petite histoire noire. Et en effet, la première scène, un petit peu d'exposition comme ça, plein feu sur une scène de crime assez mystérieuse parce que rien n'est dévoilé, seulement est présente la victime. Sur le plateau.
Il y a des histoires de casse aussi, vous êtes des bandes, enfin, c'est la mafia, un petit peu argentine peut-être, puisqu'on a beaucoup de tango autour de nous, on est dans les années 30.
Oui, bon, bah alors.
Il y a un mélange de plusieurs univers.
Voilà, nous, on aime bien jouer avec différentes disciplines, différents arts et différentes époques. On aime bien donner plein de choses comme ça et le public reçoit ce qu'il veut, il fait un peu le tri, il choisit. Alors nous, on a donné une couleur, déjà dans le polar, après un peu l'Argentine avec le tango, la musique, nos allures. On est dans un cabaret, on croit. En même temps, vous avez vu, le sol, c'est du sable, un peu voilà cette terre battue. Tout a un côté très chic, mais en même temps un peu déniapé. On est très élégant, en même temps on est des gangsters. On ne sait pas où on est, on ne sait pas bien qui on est, mais en même temps on donne à voir, à nourrir un petit peu comme chacun il a envie. C'est pareil, c'est comme cette histoire d'histoire. Nous, on raconte une histoire, après, on raconte sans les mots. Alors, c'est vrai que ça reste...
Si, il y a les mots de la danse, enfin, c'est pas des mots, mais
voilà,
c'est le langage de la danse,
langage,
en tout cas.
Le langage des sens, et c'est pareil, chacun utilise ses sens comme il veut, on perçoit ce qu'on perçoit. Et donc notre histoire, elle est un niveau du spectacle, comme la danse ou l'image ou la musique. Il y a différentes couches.
Ah, je vais encore te contredire. Tu dis qu'il n'y a pas de mots, mais si, il y en a, puisqu'il y a de la chanson en anglais et en espagnol. Et
c'est
dans
vrai.
Ces chansons, il y a des mots.
Oui.
Te quiero, tout ça. Enfin voilà, il y a des trucs quoi.
Microsonne.
J'ai compris ça aussi.
Il y a une chanteuse donc qui interprète différents tangos. Il y a une adaptation de El Choclo, un tango traditionnel. Je crois que ça a été le premier tango qui a été composé. Et là, on s'est basé plutôt sur la version de Louis Armstrong, donc un peu plus jazzy déjà. Pour aller, faut toujours qu'on casse, nous, on est un peu dans la...
Il y a une autre reprise, à l'accordéon du morceau de Dick Dell qu'on retrouve dans le film de Tarantino.
Ah oui, le...
Eh oui, Dick Dell remplacé par un accordéon, alors que c'est quand même un guitariste et assez incroyable. Là, vous avez effectivement cassé encore un truc.
Oui, après, cet air-là aussi, il a été repris, je veux dire, dans la... Déjà, Tarantino l'a emprunté des...
Dick Dell, le guitariste de Dick Dell.
Je veux dire, c'est un air déjà traditionnel, je pense.
Oui.
Voilà. Oui, oui, nous on adore ça, c'est un duel de filles qui s'affrontent en danse. Je trouve que vraiment ce morceau il colle, c'est un moment fort, je trouve.
Mais peut-être parce que quelque part Tarantino vous a influencé ou a influencé pas mal de monde du coup, avec cette scène fantastique effectivement quoi.
Ouais, le c'est vrai, c'est un peu un côté presque cow-boy, duel, c'est vrai qu'il y a, ça colle, ouais.
D'accord. Alors, vous venez de Besançon, mais vous avez été accompagné par le Fourneau. C'est-à-dire que vous avez travaillé au Fourneau aussi à Brest.
Oui. Ah oui, on a
été. Vous avez fichu le feu à Brest.
Alors justement. C'est rigolo parce qu'on a travaillé donc 10 jours en résidence à Brest, accueilli par le Fourneau, et on a bien travaillé. C'était super. Et pour la petite histoire, justement, c'était que le soir de la présentation publique, où on a enfin présenté une étape de travail à tout le monde, mais il pleuvait.
C'est bizarre à Brest. Hein.
Ça, c'était bizarre. Et du coup, on a présenté notre étape de travail, mais sans le feu à l'intérieur. Donc, c'était aussi...
Un peu frustrant peut-être pour vous.
Eh bien non, parce qu'on s'est regardé du côté positif.
Et finalement, pour moi, avoir vu cette présentation, c'est vrai que du coup, ça a aussi permis à la compagnie de travailler justement cette partie dramaturgie, cette partie histoire, et justement de voir quand on enlève, en tout cas, enfin, il y avait quand même des effets qui avaient été faits, mais quand on réduit cette présence des effets et de la flamme, du coup, on voyait plus la partie vraiment histoire, la relation entre les personnages, et ça permettait après de pouvoir parler avec les gens qui avaient vu cette présentation et de leur dire qu'est-ce que vous avez compris, et je pense que ça, enfin, vous confirmerez ou pas, mais que ça a servi aussi pour votre travail autour de justement cette partie dramaturgie.
Ben oui, nous c'était super parce qu'on a vraiment saisi l'occasion de vraiment tester notre histoire et dire voilà, on présente le spectacle un peu comme nu, sans ses flammes, et qu'est-ce que vous percevez, est-ce qu'il a déjà un intérêt, est-ce que voilà, c'était rigolo. Et du coup, en général, les retours étaient assez rigolos, inattendus. Déjà, les gens n'avaient pas compris l'histoire. Et c'est là où, tout simplement, au lieu de continuer à s'acharner, à se dire il faut absolument que les gens comprennent exactement que telle personne fait ceci parce que cela, eh ben c'est là où on s'est dit bon ben voilà, les gens ils ont déjà apprécié ce qui s'est passé, cette histoire qu'on raconte, elle nous fédère, elle est déjà pour nous une base et sur laquelle on s'appuie tous ensemble. Après, les gens perçoivent ce qu'ils perçoivent, mais on avance comme ça.
Est-ce que vous êtes encore en train un petit peu de chercher les enchaînements, les
précisions? C'est un spectacle récent, hein, c'est une création.
Alors, il est tout nouveau. Là, ouais. On a fait la première au mois de juillet. Et là, on en est à la cinquième représentation. Ah. Donc, c'est tout frais. Il y a des choses... on essaie quand même de plutôt roder cette forme. Mais c'est vrai qu'au niveau du rythme, on essaye un peu des choses... un petit peu différente pour on se base un peu sur nos sensations. Après, tous les publics sont un peu différents, mais selon comment ça se passe, on essaye, on fait des tests. C'est vrai, encore un petit peu.
Alors c'est vrai que c'est un spectacle à voir de nuit, évidemment, puisqu'il y a du feu, il y a des feux, et c'est assez extraordinaire. Ils utilisent vraiment un tas de matériaux qui flambent, alors des trucs liquides, des trucs sous forme de paillettes ou de sable. On a l'impression qu'ils jettent une poignée de sable, et puis en fait c'est pas une poignée de sable, c'est une poignée d'étincelles formidable. Il y a même une danse, j'ai envie de dire une danse de la brochette, qui est fantastique. C'est celle qui m'a plu. C'est la copine qui m'a dit tiens, regarde, il va danser avec des brochettes. Ça fait comme des brochettes.
C'est
un
vrai
peu,
que ce moment est super beau.
Et c'est magnifique. Il y a une danse où on voit plus. Oh, c'est toi qui danses d'ailleurs, Delphine. Et évidemment, encore une fois, un tango, hein, puisque c'est quand même un petit peu. Faut aimer le tango quand même pour aimer votre spectacle. Si on n'aime pas le tango, on est mal.
Oui, c'est vrai.
Ce moment-là est un moment vraiment fantastique car tu virevoltes. Par moments, on te voit plus. Car tu es enrobé d'étincelles. Alors heureusement, tu as mis un chapet, hein, parce que si tu n'avais pas ton petit chapet, je pense que tu aurais les cheveux qui s'enflammeraient. Tu as un costume un peu en cuir. Je suppose que tous vos habits sont unifugiés, ou je ne sais pas, il doit y avoir un truc de ce côté-là, parce que quand même, là, à ce moment-là, tu es vraiment une danseuse des flammes.
Ben oui, wow. Oui. Merci.
Qui a trouvé cette idée là, des brochettes?
Merci,
là, c'est pas mal. Hein.
Merci d'avoir précisé que c'était un moment magique, parce que quand t'as commencé par la danse des brochettes, là.
Non, mais je fais toujours ça un petit peu. J'aime bien un petit peu.
J'ai eu peur.
Vous avez travaillé avec un pyrotechnicien du coup pour ces effets là.
En fait, nous, on vient d'une autre compagnie où on a beaucoup travaillé le feu. Hervé était membre fondateur de cette compagnie. C'est la Salamandre pour la cité à Besançon. Et donc, on a déjà, avec cette compagnie, on avait vraiment envie et idée d'aller dans une recherche un peu originale et différente d'un rapport avec le feu, très proche original, c'est le mot, décliner des choses. Et nous, ensuite, de cette compagnie, on s'est détaché parce que, complètement épris du tango argentin, on a eu envie d'une fusion comme ça, qui a été possible comme ça. Et ensuite, nous, on continue la recherche, on est complètement emprunt de ça, on continue à développer toute une poésie autour du feu. Et voilà, ça fait partie de nos recherches. C'est un peu les nouvelles trouvailles qu'on aime bien et qu'on défend dans Polar. Un petit peu des nouvelles choses, ça fait partie. La brochette.
Mais il y a aussi plein d'autres petits trucs assez fantastiques. Le coup de l'arrosoir là qui tourne, qui fait des cercles sur le sable, c'est pas mal aussi. Alors c'est quoi? C'est du pétrole. Je crois qu'ils vont te donner leur secret. Non, ils vont pas donner leur secret, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fumée. Je me disais, franchement, en tant que public, mais comment ils font pour supporter c'est parce que l'odeur est quand même assez importante. On s'en prend un peu plein le nez, mine de rien. Et vous devez peut-être pas avoir mal au crâne à la fin du spectacle. Je me disais ça comme ça.
Mais vraiment, ils s'inquiètent pour nous. Hein.
Pour votre santé, ouais.
Son côté paternaliste. Ouais.
Vous n'avez pas des masques à gaz pendant le spectacle?
Mais ce serait tout de suite moins poétique.
Ce serait moins joli, à moins de faire un truc apocalyptique post.
C'est vrai qu'une chanteuse avec un masque à gaz, Paco, ça aurait perdu son charme.
Existe, hein.
On n'y a pas pensé.
Je suis sûr que ça existe. En tout cas, voilà, Polar se sera joué, on peut vous le dire,
mercredi, jeudi, vendredi aussi, 23h cette fois-ci.
Voilà, 23h, c'est place des Jacobins, juste à côté de l'endroit où on est installé avec le petit studio Canal B Mutine. 23h tous les soirs, donc mercredi, jeudi et vendredi 4, 5, 6 août, place des Jacobins, une très jolie place d'ailleurs, toute petite qui me forme comme un petit cocon autour de vous. Le public est tranquillement installé, il y a un bon son, c'est pas mal du tout. Hein. C'est,
voilà, on est bien.
Le spectacle est magnifique.
Et je crois maintenant, Paco, que c'était la minute d'Hervé.
Alors Hervé,
la minute d'Hervé, donc il va pouvoir parler le.
Il veut pas le pauvre.
Il faut s'approcher.
Allez, rapproche-toi du micro.
Bien devant.
La contrebasse, c'est la musique.
Alors tu es chanteur, contrebassiste, musicien, danseur.
Oui, contrebassiste, danseur. Quoi.
Contrebassiste, danseur et artificier.
Voilà.
Comment on fait les deux, la contrebasse? On la tient, on danse.
On fait, je claque. Boum.
Non, il y a des chorégraphies, il danse pas forcément avec sa contrebasse tout le temps.
Oh, elle fait une petite irruption sur le plateau.
Il y a un petit moment où elle arrive, où elle balance de haut en bas, effectivement.
Parce qu'on pourrait imaginer un couple, lui, sa contrebasse dansant le tango.
Vous avez loupé notre précédent spectacle aussi.
Oui, parce que faut savoir que du coup ce duo qu'on a dans les studios a commis un premier spectacle pour rester dans la thématique du polar, a commis un spectacle qui s'appelle toujours A Fuego Lento. Vous étiez donc
la
tous
danse
les deux.
Du barbecue, je traduis en même temps.
Alors là, ça veut dire à feu doux.
À feu doux, voilà,
on reste dans
ça mijote là.
On était vraiment sur encore une fois avec donc l'utilisation du feu pour au service d'une dramaturgie, d'une histoire de couple.
Une histoire d'amour,
ça se déchire, ça se réconcilie. Et là, donc, vous passez sur une forme qui est plus grande. Comment ça se... De deux personnes, vous passez à cinq personnes. Comment on évolue le travail dans ce cas-là, dans une compagnie, l'organisation d'une compagnie, et la pression peut-être aussi d'avoir finalement du coup des gens qui dépendent de nous au-delà de votre couple duo de compagnie.
Oui, des fois on a l'impression qu'on est d'un couple, on est devenu papa et maman. On a des enfants. Non, c'est pas gentil, c'est pas vrai. On a voulu grandir parce qu'on a envie d'aller plus loin dans notre recherche, dans le travail, et que voilà, à deux, je peux pas dire qu'on a fait le tour. On pourrait chercher, mais c'est quand même plus rigolo de s'associer, d'avoir des copains, et puis de mélanger les idées pour.
Et dans 10 ans, ils sont 25 sur la place Jacobin.
Voilà.
Pour un spectacle monumental, toujours sur le tango.
On monte
et avec du feu.
Sur l'église, tout ça. Et ben voilà, c'est très agréable de s'associer. Puis on en a eu l'occasion, comme vous avez dit, on a eu en plus des partenaires qui nous ont soutenus. Alors du coup, la création est plus aisée parce qu'on est on a des meilleures conditions et voilà, tout simplement. C'est ça. Ça s'organise. Nous, on reste un peu chef de file de la compagnie, forcément. Un peu la direction artistique, si on peut employer les termes. Voilà. Et voilà, chacun, c'est aussi un petit collectif où, bien sûr, chacun amène ses idées et on crée ensemble les danses et les...
Tu as une formation chorégraphique, tu as fait de la danse
Alors, moi, j'ai plutôt appris sur le terrain.
D'accord.
Voilà.
Eh ben dis donc, ça se voit pas. On dirait que t'as fait 14 écoles, les plus grandes de France et de l'étranger. Merci beaucoup en tout cas, donc la compagnie Bilbo Basso pour la présentation de ce spectacle intitulé Polar. On comprend bien que c'est un polar. Enfin, si on comprend qu'il se passe des choses pas bien. C'est pas bien les gangsters de faire sauter des coffres comme ça.
Création 2010. Oh non,
tu sais. Création accompagnée par le fourneau, donc puisque c'est normal. Hein, l'organisation, les organisateurs du festival du Phare de Morlaix propose toutes ces compagnies qui ont travaillé au fourneau à Brest notamment.
On retrouve donc ce spectacle mercredi, jeudi, donc mercredi c'est ce soir, jeudi demain et vendredi à 23h03 sur la place des Jacobins.
Prochaine invitée, Hannibal et ses éléphants, juste après un petit... Ah non, on me fait des signes, Marine me fait un signe. Bon, non, on en reparle juste après un petit morceau de musique. Donc tiré encore une fois du spectacle proposé par Bilbo Basso. Vous allez voir, c'est du tango.
Thank you.
Oh, ces rythmes, ces envolées accordéonesques, contrebassistesques et pianesques. Oui, c'est la musique de Bilbo Basso, jouée en direct sur scène d'ailleurs. On vient d'écouter donc un extrait du spectacle Polar.
T'as eu bien envie de nous faire la danse de la brochette.
Ah non, mais j'arrive pas, moi, le tango, j'avoue que j'ai un petit peu de mal rythmiquement, je comprends jamais rien où vont les coudes. C'est un peu la musique argentine, j'ai un petit peu de mal. Mais alors, puisqu'on est en Argentine, on va ripper un tout petit peu vers la gauche ou vers la droite, je sais plus si c'est vers l'est, vers le nord ou vers l'ouest, vers le nord, je pense, en tout cas, pour retrouver.
Très au nord, on va retrouver. C'est plus qu'un tout petit peu.
La Colombie avec notre.
Deux fois la distance
invité.
De l'Europe, ça va.
Je vous rappelle qu'on est en direct depuis Morlaix pour le festival des arts de la rue de Morlaix qui s'appelle Le Phare. On est sur fréquence mutine 103.8 et 94 MHz Rennes pour Canal B.
Et qu'on peut s'appeler Radio Phare puisqu'on est là pour 3 jours.
Hein. Et ben voilà, c'est Radio Phare encore une fois qui continue jusqu'à 14h. Je dis encore une fois parce qu'on était déjà là l'année dernière et encore cette année. Donc on va enquiller 3 émissions, midi 14h, mercredi, jeudi et 11h, 13h, vendredi pour des raisons de festival de Crozon. Et on va à chaque fois interviewer des gens. Ils vont nous raconter un petit peu ce qu'ils font, pourquoi ils font, à quoi ça sert et Dieu dans tout ça.
Et pourquoi ils sont là tout
pourquoi
simplement.
Ils sont là. Nous avons donc Monsieur Puzzle Théâtre qui s'appelle comment en fait
s'appelle
en vérité
Jaca, monsieur. Jaca en espagnol.
Jaca.
Jaca en français.
Jaca.
Je n'ai pas encore la traduction bretonne.
C'est les deux noms.
C'est le même nom, mais comme en français, on a du mal à dire.
Il n'y a pas de nom de famille.
Le rote espagnol, il est dérivé, il est devenu Jaca. Mais à la base, c'est Jaca. Ah,
c'est indien d'origine.
Oui, tout à fait. C'est un prénom indien, oui.
Un prénom indien.
Ne me demandez pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça,
et il y a un nom de famille ?
Jaca Mare Spino.
Ah, ben bah voilà, ça sonne tout de suite. Là, on est en Colombie, ça y est, on y est arrivé. Là.
Donc un clown et metteur en scène franco-colombien.
Franco-colombien.
Oui, voilà. Franco... voilà.
Et alors, il fait du théâtre invisible. J'aimerais qu'on m'explique ce que ça peut être que ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que le théâtre invisible ? Parce que le théâtre, c'est quand même
pas,
un petit peu comme être vu quand même.
On peut faire du théâtre invisible, mais les gens qui écoutent la radio, ça
ne se voit pas.
Voilà.
Mais c'est incohérent, je veux dire.
Quand on fait du théâtre, c'est pour être vu, normalement.
Non, le spectacle s'appelle Le Passon. Mm-hmm. En espagnol, El Transeunte. Ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est les passants, les gens qui marchent dans la rue, sont au cœur du spectacle. Donc, c'est un spectacle de clowns fondé sur l'improvisation. On improvise avec
les gens qui sont
tout
là.
Ce qui passe.
Alors, est-ce que c'est en lien avec ce magnifique clown espagnol dont le nom m'échappe, qui est très connu aussi et qui fait aussi un spectacle d'improvisation théâtrale comment il s'appelle ?
Léandre. Oui,
exactement.
Ça y ressemble. La différence, c'est que Léandre, c'est un ange.
Oui.
Et toi, tu es un démon.
Et toi, tu es plutôt un petit démon. Tu fiches
le bazar. Je suis un peu plus vieux que Léandre. Ouais. J'ai démarré ce spectacle il y a une vingtaine d'années.
Déjà ? Le même spectacle ?
Oui. Ne dites rien parce que ça me rend encore plus vieux. Mais voilà, il y a une vingtaine d'années, c'était de la pure impro à l'époque. Mm-hmm. Mon objectif à l'époque, c'était de ne jamais rien faire deux fois la même chose.
Ah ouais.
Ça n'a pas tenu longtemps parce qu'on retrouve souvent les mêmes situations dans la rue. Donc au fil des années, il y a eu des numéros qui sont apparus par la force des choses. Donc maintenant, c'est un spectacle d'improvisation à la base, parce que je commence comme ça, j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe, comment magnifier l'espace public, le mobilier urbain, puis bien évidemment les gens, puisque c'est le rapport avec les autres qui est au cœur de ce spectacle. Donc il y a toute une partie d'improvisation, puis petit à petit il y a des numéros un peu plus
travaillés,
voilà, mise en scène, etc. Et voilà, et parfois ça dérape.
Alors ça c'est intéressant parce que tu nous disais juste avant, c'est un peu toujours les mêmes situations qu'on retrouve dans la rue. Hein, c'est ce que tu as dit. Alors,
oui, il y a quand même un certain nombre de
alors c'est lesquels des exemples ?
Je sais pas, des parents avec des poussettes.
Ouais.
Des policiers qui traversent, il y a toujours des bandes de jeunes.
Policiers.
Hein ?
On ne voit pas souvent.
Vous ne voyez pas des policiers ? Bah, je les croise souvent.
C'est vrai. Et alors donc, tu utilises des policiers,
par
exemple.
Mais pour une fois, je suis heureux de les croiser parce que c'est moi qui les interpelle.
Alors, qu'est-ce qui se passe avec les policiers ? Ça, c'est bien,
souvent,
ça.
Ils sont gentils. Dans les
oui, justement, tu en profites. C'est ça qui est bien quand on est clown de rue, c'est qu'on peut...
Voilà,
aller,
on est clown de rue,
là,
on est colombien, on a une réputation à défendre. Donc, voilà, on fonce dans le tas.
Qu'est-ce que tu fais avec les policiers ?
sais pas, tu leur demandes leur papier, par exemple.
Je ne vais pas dire maintenant, parce que sinon, on n'aura pas un sol ce soir.
Allez, mais dévoile juste un tout petit bout.
Ben, je tente d'inverser les rôles. Souvent. Voilà. Je tente de les faire sentir ce qu'ils font sortir aux gens, sauf que je le fais avec le sourire. Mmh. Bon, je ne dis pas que les policiers ne le font pas avec le sourire. Il y en a quelques-uns qui sont très polis. Et, mais il n'y a pas que les policiers. Ce n'est pas un spectacle sur les policiers.
D'accord.
C'est surtout...
Tout ce qui se passe dans la rue.
Voilà, les personnes qui traversent la rue. Donc, bien sûr, on a les enfants, bien sûr, on a les personnes âgées. On a les touristes.
Les bus. Les bus.
Ah, mais les bus, tu vas pas
oui, à Morlaix, on va avoir un peu de mal. Mais oui, bien sûr, j'adore jouer
avec...
Il y a le
petit train à Morlaix. Il y a le petit train.
Ah, c'est sympa qu'il traverse au moment de mon spectacle.
Donc, est-ce que tu fais, tu repères avant les lieux, comment...
Oui, on repère, on essaie de choisir toujours un lieu où il y a beaucoup de mouvement, où le mobilier urbain permet de prendre toute la place, parce que bon, un petit clown tout seul qui se promène, ça fait pas grand chose. Donc par contre, quand le petit clown s'appuie sur le mobilier, il y a des balcons à grimper, où il y a des jolis...
Ah, tu grimpes au balcon?
Quand je peux, voilà. En tout cas, il y a 20 ans, je le faisais beaucoup. Aujourd'hui, quelques kilos en plus, on va voir. C'est la reprise du spectacle.
D'accord.
Il y a une interruption?
Oui. Et oui, on a commencé en disant que j'étais clown et metteur en scène. Donc, c'était le premier spectacle qui m'a fait connaître en France. Et depuis, je ne fais beaucoup d'autres, sur d'autres domaines. J'ai beaucoup changé. Donc,
et tu vis en France?
J'habite en France, ouais. Oui, j'habite à...
Et tu allais jouer ce spectacle en Colombie, dans
oui,
les villages
d'origine,
dans les villes?
Oui, partout. On a dû faire une bonne quinzaine de pays avec ce spectacle. On a fait tout ce qui existe à peu près, de festivals, de théâtre.
Tu dis
de...
on, c'est qui les autres?
Oh, une troupe, c'est une troupe. On est plusieurs, oui.
Ouais,
mais à la base, il y a le clown et puis j'ai quelques collègues un petit peu qui viennent un petit peu m'épauler au bout d'un moment. Je peux pas tout dévoiler, sinon voilà, les ressorts du spectacle risquent d'être un petit peu abîmés.
Alors quand tu dis clown, ça veut dire que tu as un déguisement de clown?
Oui, oui, tout à fait.
Avec le nez rouge, tout ce qu'il faut, ou c'est
un
clown un peu
différent? Non, j'ai pas besoin. Vous voyez ces bonnets indiens bien
clown. Oui, mais à la radio, ils voient pas.
voilà, bon, bah imaginez un aztèque avec un gros nez, voilà, donc... J'en ai pas besoin, je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme vous dites en Bretagne. Voilà.
Comment ça t'est... C'est vrai que c'est assez extraordinaire. Comment ça t'est venu l'idée de prendre ce risque? Parce que c'est un risque insensé. Je veux dire, je connais pas beaucoup de gens et moi-même, je suis strictement incapable de me dire, tiens, je vais aller dans la rue, je vais commencer à faire le con, faire à peu près n'importe quoi avec les gens en improvisant. Comment ça t'est arrivé? T'avais pris un acide de trop, t'avais pris du peyote, t'avais pris la racine de cactus d'Indien.
C'est très simple, là. La fin est un très bon conseiller. Quand j'ai commencé à faire mes études de théâtre en Colombie, j'ai rencontré un mime qui m'avait appris un petit peu la technique du mime Marceau. Donc j'étais un petit peu à l'école Marceau, voilà. Et puis il se trouve qu'assez vite j'ai dû me débrouiller dans la vie et que mon professeur m'a dit, bah, tu vas dans la rue et puis voilà, tu gagnes ta vie. Si tu veux faire de ça ton métier, vas-y tout de suite.
Donc tu as fait le chapeau au début, quoi.
Voilà, j'ai commencé au début au chapeau et au tout début il y avait quelques mimes clowns qui faisaient d'une manière extraordinairement bien ce qu'on appelait ensuite les clowns suiveurs. Voilà, les clowns qui se mettaient à marcher derrière les gens pour les imiter. Et c'était excellent au début. Après, ça a un petit peu...
Ouais,
voilà, ça a été pris par des gens qui n'avaient peut-être pas assez la qualité d'imitateur qui exige ça. Donc, j'ai commencé comme ça et j'ai passé le Japon en faisant ça. Mais assez vite, je me suis fatigué. Je trouvais monotone cette idée de courir derrière les gens. Et un jour, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si je me mets en face? Voilà. Au lieu de me mettre derrière les gens, qu'est-ce qui se passe si je me mets en face? Donc je m'arrête, je me mets face à quelqu'un, je le regarde droit dans les yeux, il y a toujours quelque chose qui se passe.
Bah oui, il y a forcément quelque chose qui se passe. Alors, puisque ça fait 20 ans que tu fais ce truc-là, même si tu le reprends maintenant, tu dois avoir des anecdotes incroyables à nous raconter. Il y a dû se passer des choses pas
oui.
possibles.
Oui, j'ai eu tout.
T'as dû prendre des coups de poing dans la figure, t'as dû...
Et non, très peu, très peu.
Mais quand même quelques-uns.
C'est-à-dire que à l'époque, j'avais une forme athlétique et je réussissais toujours par grimper en haut d'un arbre.
tu t'es fait poursuivre?
Oui, une fois, il m'est arrivé quelque chose. J'ai un peu dérapé. Je peux dire que c'était un des plus grands dérapages que j'ai eu. J'étais au milieu de mon spectacle et un bonhomme qui traverse, qui faisait son jogging tranquillement avec son short. Et puis je me cache entre le public et juste quand il passe devant, je me mets derrière et je tire son short.
Oh là 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 là.
Mais je, mon envie, c'était juste de tirer un petit peu. Je fais un peu trop fort et il n'avait rien en dessous. Donc il a eu la honte de sa vie. Et à cause de la honte, il a essayé de remettre ça. Et puis tout partait d'un côté, tout ça sortait d'un côté.
Oh non,
il essayait de le remettre, ça sortait de l'autre côté. Le public était hilar. Et du coup, quand il m'a vu, j'ai vu dans ses yeux qu'il avait envie de me tuer. Donc on a fait à peu près 5 tours autour du public. Moi je courais, lui derrière moi.
Non.
Et oh, jusqu'au moment où c'est lui qui est fatigué.
Ah ouais.
Et voilà. Sinon, j'ai eu aussi des rencontres extraordinaires. Ça m'est arrivé en Colombie. J'étais déjà, je vivais loin de ma famille. Puis un jour, je suis au milieu de mon spectacle. Je vois un monsieur qui passe. Je lui saute dessus. C'était mon père.
Ah là 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 là. C'est
voilà, des choses comme ça. Plus sérieux, à Paris, j'ai eu une fois, et ça m'a donné l'idée d'une scène que je fais après. Je vois une voiture qui va traverser, donc j'adore jouer avec les voitures. Je me mets à jouer avec la voiture, le public riait beaucoup, donc je pousse le bouchon encore plus loin, jusqu'à ce que le monsieur sorte très fâché. C'était monsieur le commissaire qui m'a sorti tout...
ses papiers.
Tout ce qu'il fallait, ses papiers, etc. Mais le public l'a empêché de me faire du mal. Ils sont tous venus m'entourer et me mettre des billets. C'était à l'époque, c'était encore des francs. Ils me mettaient des billets de 50 francs dans la poche pour bien lui montrer qu'il m'aimait bien, qu'ils étaient prêts à me défendre. Donc il a laissé tomber. Et il n'était pas content.
Bon.
Du coup, après, je me suis dit, tiens, ça me donne des idées. Et si on refaisait la même chose mais pour du faux. Voilà. Et là, je vous dévoile beaucoup d'esprit. Et donc, voilà, et ça m'a permis de développer toute une quantité de scènes où la réalité se confond avec la fiction. Voilà.
Ok.
Voilà. C'est vrai qu'en tant que, en tant que programmateur ou passeur de ces artistes avec le public, c'est des formes, on parle donc de théâtre invisible ou en tout cas de théâtre qui s'immisce dans le quotidien.
Là, tu touches au théâtre invisible. Voilà.
Voilà, c'est vraiment toujours un plaisir d'accompagner ce type de proposition parce que effectivement, on est dans un mode d'emploi de festival avec un lieu de rendez-vous, un horaire, un lieu, etc. Mais je crois que dans ces formes-là, il y aura toujours les gens qui vont croiser le passage de Raqqa et qui voilà, c'est vraiment comment le théâtre et le théâtre de rue s'immiscent vraiment dans le quotidien et ponctuent comme ça sur la surprise, étonne comme ça au coin de la rue et c'est on aime toujours avoir ce type de proposition sur le festival.
T'as oublié de dire espace public.
Oui,
espace public.
Oui. Ça, c'est effectivement, j'ai envie de dire, presque l'obsession des gens du fourneau, espace public.
Bien sûr.
Prise en charge par les comédiens de l'espace public, un endroit où d'habitude il ne se passe rien. Et ben là, s'il se passe quelque chose, on utilise le mobilier urbain, on utilise l'espace public.
Et l'espace public, c'est aussi les habitants, aussi tout ce qui constitue la vie, le quotidien. Moi, je parle plus du quotidien des gens. Voilà, ça va être le quotidien des habitants de Morlaix, ça va être le quotidien des visiteurs de passage, des touristes. Voilà, c'est dans ce quotidien-là qu'on intervient. Et que les artistes interviennent.
Ouais, le spectacle était programmé là, dans la catégorie répertoire. Au début, j'étais un peu choqué, je me disais répertoire, ça nous vieillit, etc. Mais en même temps, ça m'a fait réfléchir parce que c'est vrai que, comment dire, à l'époque, on était un peu quelque part des pionniers, d'une certaine manière. Après, ça s'est popularisé, jouer avec le public, les barons cachaient des comédiens, etc. Mais à l'époque, on expérimentait vraiment. Et je parlais de théâtre invisible parce que ça vient d'encore plus loin, ça vient d'un monsieur qui s'appelle Auguste Boal, lequel s'est servi des créations des scènes où le public ne savait pas vraiment si c'était du théâtre, avec des objectifs plus politiques, plus sociaux, plus engagés.
Comme la compagnie Cacahuète, peut-être un petit peu aussi.
Cacahuète, on voit tout de suite, tout de suite que c'est du théâtre. Ce que Boal faisait dans les années 60, on ne savait pas.
Ah, d'accord.
Les gens ne savaient pas. Et le but qu'il avait à l'époque, c'était que les gens ne le sachent pas. Il voulait juste titiller les gens, se servir du fait divers pour questionner la société et pour impliquer les gens, pour les sortir un petit peu de la morosité et faire en sorte que qui s'implique dans ce qu'il voit dans la rue, dans ce qui se passe, dans le fait divers ou dans le fait politique ou dans le fait social. Et
Augusto Pinto Boal.
Voilà. Ouais. Et ce grand monsieur du théâtre nous a laissé des leçons. Je me suis s'en servi pendant un certain temps juste pour l'amusement, tout en niant sa règle numéro un. Voilà, je pense qu'un bon élève doit nier le maître, et qui est de ne pas montrer au public sa règle, que c'est du théâtre. Moi, je préfère montrer au public, parce que quand on piège le public, et qu'après, ils se rendent compte que le piège, ça le rend plus alerte. Et ça, c'est un rôle aussi pédagogique, on se rend compte que finalement, c'est facile de se faire manipuler. Et actuellement, ça prend à nouveau des tournures un peu plus politiques. Peut-être l'âge, je ne sais rien. peut-être plus l'envie que d'amuser fait que les scènes sont un petit peu plus posées, qu'on revient à des formes qui interrogent ce qui se passe dans le monde et dans la rue en ce moment. Oui, voilà. Et donc, voilà, on n'est pas là pour donner des leçons aux gens, on n'est pas là pour leur apprendre, on est juste là pour refléter la vie. Et puis, bon, il y a plein de choses à refléter en ce moment. Voilà.
Ah oui.
C'est vrai que ça me fait penser aussi au travail de d'autres compagnies. Moi, je garde une image en tête de travail de Teatro del Silencio.
Oui.
Compagnie
chilienne.
Du Chilienne.
Oui, des copains.
Et donc, je me rappelle d'images que je n'ai vues qu'en photo, mais en tout cas de personnages qui étaient dans le métro parisien et qui, voilà, c'était vraiment des personnages masqués qui dégageaient quelque chose et qui déambulaient comme ça dans le métro, dans les rames, dans les couloirs et qui, voilà, qui amenaient un autre langage dans cet espace, encore une fois, quotidien et qui va à 100 à l'heure. Voilà, je crois que c'est ça aussi, c'est comment amener du sens à un endroit où on ne l'attend pas. Oui. Et c'est vraiment une écriture mouvante.
Mais mettre une loupe, c'est une sorte de loupe qui fait réjaillir des choses que les gens ne regardent plus par habitude.
Il y a les Tony Clifton qu'on va voir aussi là sur le phare vendredi, qui sont adeptes aussi dans le processus de création de leur spectacle de ce type d'intervention. Où j'ai aussi une image en tête, je l'ai pas vu non plus, c'était dans le métro à Rome, mais autour de leur spectacle, donc le Christmas Forever, et il y a notamment tout un travail sur les super-héros, et donc ils avaient installé un de leurs comédiens déguisé en Spider-Man, avec vraiment un costume ridicule de Spider-Man, mais qui était accroché à un poteau à l'entrée d'une station de métro de Rome, voilà, et donc c'était la réaction des passants qui arrivaient sur Spider-Man, qui s'était auto-bloqué sur la colonne d'entrée de la station. Voilà, c'est vraiment des images comme ça posées à un moment donné. Et comment ça parle aux gens.
Un peu comme avait fait aussi l'année dernière, je pense à la compagnie des réseaux qui avait investi et qui proposait au public, quand ils avaient compris que c'était un spectacle, de basculer de l'autre côté et de devenir acteur aussi. C'était, on est toujours dans ce cadre-là.
Oui, c'est un réseau qui du coup a été très utilisé, mais qui au fond est inépuisable puisqu'on joue avec le présent. C'est la même scène, la même scène n'est jamais deux fois pareil. Parce que les acteurs, justement, le public ne sont pas les mêmes. Le lieu n'est pas le même. Et à partir du moment où ces deux éléments changent, tout peut changer, tout peut arriver. Et c'est ça qui est fascinant, c'est ça qui fait peur. C'est ça qui donne le trac. Et en même temps qui fait qu'au bout des 20 ans, le spectacle reste vivant parce qu'on ne s'habitue jamais. On peut être un grand génie aujourd'hui et un grand idiot le lendemain s'il y a quelque chose qu'on oublie ou qui dérape, ou si la fatigue prend le dessus, etc. Donc, il y a un danger permanent.
Et je crois que je rajouterais, on peut être un très bon comédien et quand on se retrouve dans une situation comme ça, voilà, je crois que l'improvisation, c'est encore une autre technique d'arriver à avoir une lecture très rapide de tout ce qui se passe autour de soi et de pouvoir l'inclure dans l'histoire qu'on raconte.
C'est vraiment... faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute, une écoute redoublée. Et on est des humains, on n'arrive pas tout le temps. Il y a des jours où on sent la mouche qui traverse à 20 mètres. Et il y a des jours où on ne se rend même pas compte qu'on respire. Donc tout ça change et qui fait que... voilà.
Ah, il y a justement une mouche qui vient embêter. Excellent. Elle est arrivée le temps entendu. Énorme.
Et voilà. Donc ça reste vivant malgré 20 ans et puis beaucoup de pays, beaucoup de festivals, beaucoup de villes.
Comment le clown de rue que tu es aurait réagi s'il avait rencontré un plateau radio tel que nous, dehors, comme ça, dans la rue?
Tu serais venu parler
derrière le micro, mon ami.
Alors, c'est un peu embêtant, oui, parce que je...
Le clown ne parle pas, je pense.
Je parle très peu dans le spectacle. C'est du mime clown. On essaie de travailler par... par le geste essentiellement. Ça, ça porte plus dans la rue que la voix, même si maintenant j'ai des spectacles à texte, etc. Faut dire que bah, à la base c'est ce que je sais faire le mieux, donc voilà, okay. J'essaie de m'en servir.
Alors si vous faites du jogging sans culotte d'aller sous votre short place de Viarme à 21h30 21h03 pardon,
pile,
et ben faites gaffe au Puzzle Théâtre, faites gaffe à Rafa,
non,
courir après, vous
venez vous amuser, juste venez rigoler avec nous.
Si vous faites pas de jogging sans culotte, vous pouvez y aller
mercredi, donc ce soir, et vendredi 21h03.
Voilà, et puis demain on est à Brest aussi.
Pour les Jeudis du Port.
Pour les Jeudis du Port. Donc aujourd'hui et vendredi à Morlaix, et demain à 19h12 dans le port de Brest. Voilà.
Merci beaucoup Rafa, rendez-vous ce soir 21h.
Enfeitei pro meu amor em segredo com vestido rosa chá coloquei fita de seda no cabelo e esperei meu bem chegar. Vem te pentei o cabelo, no galho vou balançar. Eu quero os braços do meu bem quente com. Só o esquento o dia, corri pra porta espiar. Caiu do céu uma mensagem da estrela. Estou com saudade do meu lar. Pegou fogo no engenho que o seu doutor mandou buscar. Meu amor desceu o rio, não sei quando vai voltar. Eu me enfeitei pro meu amor em segredo com um vestido rosa chá. No cabelo, eu esperei meu bem chegar. Pente, pentei o cabelo, no galho vou balançar. Quero os braços do meu bem quente. Thank you. podia, corri pra porta espiar. Caiu do céu uma mensagem da estrela, estou com saudade do meu lar. Pegou fogo no engenho e o seu doutor mandou buscar.
Mariana Caetano, à l'instant, sur l'antenne de Canal B.
Et de Fréquence Mutine.
Et de Fréquence Mutine. Oh, pardon. Je te mettrai un petit jingle. Allez, allez, Cathy.
Oh oui, j'en ai les jingles cette fois-ci.
Fréquence Mutine, Canal B, donc, qui ont monté un petit plateau en commun. Ben voilà, c'est pas la première fois que Fréquence Mutine et Canal B couchent ensemble pour faire de la radio. C'est comme ça. C'est parce
c'est
que. C'est, ben oui. Alors, c'est vrai qu'on a eu des fois des collaborations avec Namur, Radio Equinox ou même Radio Panique. Peut-être que ce sera repris au bout du monde par Radio Panique d'ailleurs. Donc on commence par la Bretagne, après on fera la France, puis après le monde entier et l'univers.
À deux.
On concourira tout le monde. Mariana Caetano, donc qui joue avec la compagnie, notamment Madame Bobage, bien souvent. Bah oui, c'est ça, le rapport avec les arts de la rue et ce morceau. On est toujours donc au phare de Morlaix, dans une petite école. On a installé notre petit studio et on accueille pour cette fin d'émission
Hannibal et ses éléphants.
Voilà les derniers invités de ce mercredi 4 août. Invités donc qu'on connaît un petit peu, notamment Thierry Laurent qui est ici et
qui nous a rejoint. Également.
La deuxième personne qui s'appelle
Fred.
Fred.
Bonjour Fred.
Bonjour Fred. Alors Hannibal et ses éléphants. Il y a donc des éléphants.
Oui, il y en a pas mal. Ouais. Des dinosaures, des tout. Ouais. On est des vieux de la vieille. C'est pour ça on est venu avec toute la ménagerie. Ouais.
Ça raconte quoi ce spectacle ?
Comment ?
Ça raconte quoi ce spectacle ? Parce qu'il s'appelle Misérable, nous on pense tout de suite à Victor Hugo.
En fait, nous on a créé le spectacle en 2006. On avait un petit peu envie de parler du contexte social, économique et politique qui nous entoure. Parce qu'on se dit qu'on joue dans la rue, donc on a quand même un public large et varié. Donc c'était bien de prendre la parole pour parler de ça. Surtout qu'on voit que les gens qui parlent de ça, ils sont souvent en prison ou chassés des antennes. Donc on s'est dit, on va le faire dans la rue, tant qu'on en a la liberté. Et puis, pour parler de ça, on s'est dit, on va voir un petit peu ce qu'a fait la famille dans les époques précédentes, avant les révolutions précédentes, etc. On s'est rendu compte qu'il y avait eu pas mal de versions des Misérables montées déjà par la famille Hannibal. En 1864, en 1936, etc., etc. Donc on s'est dit, ouais, super matériau. Donc on a récupéré un petit peu plein de scènes comme elles étaient jouées à l'époque. Et puis on en a rajouté un petit peu. Et puis voilà, on a fait un petit mix de tout ça. Et on le présente sous une forme donc à la fois très, très éclectique. Et puis avec un fond qui doit autant à Victor Hugo qu'à la presse d'aujourd'hui, voilà, on va dire.
Ça épingle.
Comment ?
Ça épingle.
Les Misérables, c'est un petit peu quand même un compte-rendu de la réalité sociale de l'époque, voilà, comme on n'en est pas tellement éloigné de nos jours, pour le moins qu'on puisse dire.
C'est vrai que les
seuls acquis qu'on a pu avoir, on est en train de les démolir, du coup, ça permet de voir un petit peu vers quoi on va retourner.
C'est vrai que ça surprend toujours qu'une œuvre comme celle-ci, on pourrait la lire, la raconter aujourd'hui, et puis on aurait l'impression qu'on parle de la situation actuelle. C'est aussi là-dessus que vous jouez justement, et pour nous plonger dans un quotidien d'une compagnie, c'est aussi une base du travail. On passe de c'est une compagnie qui tente de jouer Victor Hugo, qui met toute son énergie, hein, mais du coup on plonge dans le quotidien d'un artiste aujourd'hui, d'un comédien. Peut-être parler de ce va-et-vient
Mais c'est vrai, il y a plusieurs niveaux de lecture hein, sur le contexte social hein, actuel, bien sûr, de l'histoire des Misérables, et bien sûr le cheminement économique de cette compagnie. Comment actuellement bah, les artistes sont obligés de multiplier des situations pour arriver à vivre d'un métier ou qui leur ressemble. Et c'est vrai que là, entre autres, en l'occurrence, où des artistes vont peut-être au centre commercial pour gagner leur vie, quoi, sans tout dire. Voilà, donc c'est vrai qu'on voit au travers de la vie économique de cette compagnie quels sont les obstacles qu'elle rencontre. Et là aussi, le parallèle avec la situation du ministère de la Culture actuellement, que ce soit sur le gel ou sur la baisse des subventions. Hein. Là, on a Erif de Axe Les Termes. On voit que l'État se désengage chaque année de 5000 euros et on peut traverser la Bretagne. Et c'est aussi les mêmes répercussions, quoi. Oui, parce que le territoire est menacé au niveau culturel. Donc c'est vrai qu'on parle de ça également au travers de notre spectacle.
D'accord. Alors, bon, vous êtes de Colombes, c'est ça ?
C'est
dans la région
Colombes, dans le 92.
Dans le 9-2.
Voilà, dans le 9-2, chez De Vettian.
Vous avez un lieu là-bas ou... Oui. Vous avez un lieu
Alors, nous avons un tout petit lieu qui s'appelle la Cave à Théâtre, qui est un centre d'expression et de formation théâtrale, et également un lieu de répétition et de diffusion, qui est très, très petit, qui est assez singulier, et donc qui nous permet de travailler et d'être en relation aussi avec les amateurs. On a 180 élèves. Dans ce centre d'expression de formation théâtrale.
Alors, c'est intéressant ce que disait tout à l'heure ton collègue. Il disait, il y a des dinosaures aussi, parce que je posais des questions sur les éléphants. Et en fait, finalement, j'ai l'impression que les compagnies qui ont, comment dire, un petit peu de bouteille, hein, pour parler un petit peu.
Des rides surtout.
Des vieux, en fait. Souvent un petit peu commencé parfois. Alors, ils continuent à faire des spectacles, mais parfois peuvent se lasser un tout petit peu de tourner. Gala, matos, montage, etc. pour parfois se tourner vers la formation et la transmission finalement. C'est un petit peu ce que vous faites dans ce lieu.
Alors c'est pas une fatigue. Je crois que c'est aussi donc nous le centre là on fêtait son 50e anniversaire. C'est-à-dire que nous-mêmes on a été élèves dans ce centre et celui qui était à l'initiative qui s'appelait Jacques Sartou est décédé. Donc on a repris normalement. C'est un conservatoire, c'est très sérieux à l'époque, un conservatoire d'art dramatique municipal qui est devenu un centre d'expression après les années 68. Parce qu'il s'est passé des choses 70.
Ah bon.
Donc maintenant c'est un centre d'expression et de création théâtrale. Donc c'est pas la fatigue, c'est on nous a nourris par ce biais-là dans ce lieu, puis il y a eu une attache affective, et puis à notre tour, eh bien, on fait le relais, comme on fait le relais avec dans notre compagnie. Bon, il y a des gens qui ont plus de 50 ans, mais on a aussi des gens qui ont moins de 30 ans. Voilà, c'est normal, c'est une transmission normale, mais comme le public, hier soir, on a joué devant un public qui allait de 4 à 97 ans, bah, c'est le plaisir d'échanger avec toutes les
tranches. Et toi, Thierry Laurent, tu ressens pas effectivement donc la fatigue dont je parlais tout de suite d'avoir tourné pendant des années, monté, démonté, bossé, toujours sur la route. Parfois, t'as peut-être envie de te poser devant TF1 et 2 minutes. Je pousse un peu le bouchon.
Être abruti, faire le travail, mais pas à ce point-là.
Le plus compliqué des fois, il faudrait qu'on soit téléporté. C'est les transports.
Ah, on est d'accord.
Là, on a traversé quand même Pyrénées, Morlaix, ça fait un bon bout, hein, près de la frontière espagnole.
Ça peut être fatigant.
Donc ça, c'est un peu fatigant. Mais après, ce qui est bien, c'est la relation, quoi. Hier, on était dans un petit village de 900 habitants, là, à Saint-Caroc, et on a joué là-bas. Et là, c'est génial. C'est qu'une fois qu'on est arrivé sur place, il y a le petit moment du déchargement. Mais pareil, là aussi, on travaille toujours soit avec des régisseurs professionnels, soit des bénévoles. Et déjà, la relation commence à se créer. C'est à sentir les choses, quoi. Par le premier contact étant avec les régisseurs et ceux qui vont nous aider à décharger. Et après, très vite, l'enthousiasme repart. C'est vrai que le trajet, c'est vrai qu'avec les compagnons depuis 30 ans, là, à Contreuil, bon, c'est vrai qu'on a toujours des choses à se dire, mais c'est vrai que ça, c'est un peu fatigant. Je l'avoue. Arrivé à 52 ans, mais la route, c'est un peu compliqué.
Est-ce que l'enthousiasme est toujours le même aussi à l'arrivée? Est-ce que tu parles d'enthousiasme?
Non, l'arrivée, c'est comme, vous savez, le spectacle, t'es éternel recommencement. À chaque fois, c'est différent. Et c'est vrai que la prise de contact avec les gens est toujours différente. Et ça, c'est super. Et j'arrive à Morlaix, je suis tombé sur Madame le maire. C'est pas merveilleux.
Quel accueil, t'as
premier
vu ça
magistrat de la ville, voilà, voilà. Vous,
on a fait ça bien.
Voilà, bravo, on est bien accueillis. Non, non, ça, c'est cette relation, où créer les circonstances de la rencontre. Pour l'instant, on n'est absolument pas étouffé par ça. Au contraire, on en redemande. On est à chaque fois étonné, comme d'accord. Si on faisait l'amour pour la première fois.
Tu parlais d'aller aussi dans les petites communes, etc. Du coup, ça me fait penser que ce spectacle, donc Les Misérables, a fait ses premiers coups d'essai pas très loin d'ici. C'est dans la commune de Loquet-Guinère-Saint-Égonnec, commune de...
Oh là !
Loquet-Guinère-Saint-Égonnec, qui d'ailleurs, depuis qu'ils sont passés, la commune veut changer de nom. Là, je sais pas, non, c'est pas du tout lié, mais voilà, Loquet-Guinère-Saint-Égonnec, parce qu'il y a un Loquet-Guinère et il y a un Saint-Égonnec. Donc après, à chaque fois qu'ils commandent du matos, il y a un bout qui va à Loquet-Guinère, un autre qui va à Saint-Égonnec, et ça devient le bazar. Voilà, c'est une commune qu'on a revisité cette année avec le Médésar, et donc ce spectacle a commencé aussi dans cette commune, donc de 200 âmes du pays de Morlaix. Voilà, je crois que c'est ça aussi, des histoires singulières liées à la création aussi. Je sais pas si vous avez un souvenir de Loquet-Guinère-Saint-Égonnec.
Oh, bien sûr. On en parle souvent. On en parle très souvent.
C'était des grands moments là-bas. On s'est bien marré parce que c'est vrai qu'on a été super bien accueillis. On a fait une espèce de répétition publique un jour. On a fait participer les spectateurs. Donc, vous verrez, il y a une partie du décor dans lequel on passe la tête. Il y a des spectateurs qui ont passé la tête. Quelqu'un se l'est coincé. Il va dû sortir. Enfin, et puis, on a fini la nuit. On va dire la nuit, hein. Chez l'employé municipal.
Il n'y en a qu'un.
Donc voilà,
et on a fini la nuit chez lui.
Qui nous a invités à manger. Donc il nous dit venez manger. Tout ça, on lui dit tu sais, ça va être long le temps qu'on range tout, etc. Puis on s'est pointé chez lui à minuit. Mais il nous attendait. Il était là encore sur le qui-vive. Puis quand on est arrivé, il dit vous êtes venus quand même. Super content de nous accueillir. On a pris l'apéro de minuit à 3h du matin à peu près. Il a chanté, il a dansé, sa femme nous a pris la tension. On est reparti vers 5-6 heures après avoir mangé des huîtres, du cochon, enfin bref.
Ça use, voilà. Ça use.
Je confirme et ça n'a pas changé à Loquet-Guinère-Saint-Égonnec, hein, parce que cette année, on a eu du mal à repartir de la commune quand on a amené donc les artistes dans le cadre du Médésar. La mairie a mis les petits plats dans les grands avec une grande soirée. Et, on avait du mal à dire demain on bosse quand même.
Jusqu'à 6 du mat, 7 du mat.
Donc, vraiment super accueil.
C'est sûr qu'on ne peut pas s'essouffler de ces rencontres-là, parce qu'elles sont vraiment exceptionnelles. Elles sont vraiment exceptionnelles. L'histoire que raconte Frédéric est vraie. Et c'est improbable, incroyable, quoi. Le seul employé de la ville, on finit chez lui, quoi. Et voilà, génial.
Thierry Laurent, tu portes sur ton chapeau de paille deux petits badges, Rue Libre. Tu as investi aussi dans, j'ai envie de dire, l'action qui est menée par l'association, notamment la Fédération des Arts de la Rue au niveau national, mais aussi bretonne, etc., les différentes fédérations. Tu n'es plus président de la Fédération nationale, tu as laissé ta place à Pierre Prévost. Et qu'est-ce que tu en retires un petit peu comme une sorte de bilan de cette présidence de la Fédération nationale de la rue, qui a beaucoup œuvré, du coup.
C'est passionnant parce que c'est d'être à l'écoute de la diversité. Et ça, c'est toujours bien si on est sensible à cette diversité-là. On parle de petites compagnies, on parle de grandes compagnies, on parle des esthétiques complètement différentes, de lieux différents, d'implantations différentes. Et c'est cette richesse-là qui m'a vraiment nourri, même si très souvent, je regardais mes mails entre minuit et 2h du matin, parce qu'on est soit sur la route, soit on joue. Donc en général, la présidence se fait entre minuit et 2h où il faut répondre. Et c'est très enrichissant. Il y a un travail sur soi, sur l'écoute de la parole plurielle. Voilà, et ça c'est un travail à faire que chacun doit faire. C'est un peu la quête d'harmoniser ces diversités là. C'est ça que j'en tire le plus, et donc c'est pour ça qu'il faut aussi continuer à poursuivre le travail, parce que cette diversité là, on parlait tout à l'heure de TF1, quoi. On veut quand même, on a tendance à uniformiser. On se balade souvent, on voit les zones industrielles comme elles se ressemblent, que ce soit du sud au nord. Donc c'est vrai que sur cette parole de la diversité, ce qui se passe au niveau des actualités, elle n'est pas complètement naturelle, quoi. Il y a un impérialisme là, je dirais culturel, politique,
audiovisuel,
hein, ou même dans nos boissons, dans la manière de manger. Et on a vraiment à beaucoup travailler pour qu'il y ait cette diversité là. Et si on n'y prend pas gaffe, si on n'a pas cette vigilance, si on n'est pas en alerte, si on n'est pas en écoute de ce qui se passe, eh bien on va sombrer sur un seul et unique chemin, et c'est dangereux.
Est-ce que ça a servi jusqu'ici la Fédération nationale scène-là, Les Arts de la Rue.
Oui, je pense qu'elle a servi, elle a fait des bons, même si ça reste encore très infiniment petit, mais c'est le combat que nous menons tous sur la quête du bonheur, quel que soit, on pourrait parler des syndicats, des responsables d'associations, c'est pas uniquement dans notre secteur, où cette quête du bonheur à l'échelle universitaire, on a encore beaucoup de travail à faire. Alors bien sûr dans le nôtre, parce que notre volonté c'est de rassembler les gens, on rappelle actuellement qu'il y a 19% de gens qui vont au théâtre seulement, 35%, et on sait que le combat de l'obscurantisme sont dangereux, et c'est important justement d'ouvrir les places, d'ouvrir les rues pour ouvrir nos yeux. Pour
vous savez que vous allez dans le contraire de l'action du gouvernement quand même, vous voulez...
Oui, ben là c'est... Voilà, après,
vous faites le contraire de ce qu'ils veulent.
Il y a des prises de position, il y a une politique gouvernementale, et puis après il y a ce que prônent les artistes, mais pas uniquement les artistes, les techniciens, les habitants, ce qu'on appelle dans notre jargon nous, le public population, pour faire en sorte qu'il y ait des échanges fructueux, riches, de nos expériences, de nos réflexions, de nos lectures.
D'accord.
Frédéric, c'est un plus ou un moins d'avoir le président dans sa compagnie ?
D'avoue.
C'est le bordel. C'est un gars qui est pas souvent là, qui part pas en même temps que nous en tournée, quand on est obligé d'aller chercher dans des gares par-ci par-là.
Ouais,
qui
mais ça fait la promo de la compagnie quand même, du coup aussi. Hein.
Je pense pas. Ah, après, si. Oui, après les gens tiennent, le président, après on sait de quelle compagnie il vient, mais après.
Je vais aller voir ce spectacle Hannibal les éléphants misérables parce que c'est quand même le président de la Fédération
nationale. Comme nous avons un souci à la Fédération de ne pas créer des appareils chics, donc ça tourne. Chaque président fait à peu près, il est élu chaque année, donc il n'y a pas des mandats de 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est des mandats d'un an.
Mais t'as fait combien de temps? T'as fait un an?
J'ai fait 3 ans.
Ah bah oui, quand même.
3 ans, puis au bout de 3 ans, ça avait été dit au départ comme quoi...
C'était le maxi.
Et ce qu'on fait chaque président avant, donc au bout de 3 ans, pour laisser la place, pour justement ouvrir et pas être dans un rapport donc, de privilège ou bien de se dire, c'est une notoriété pour la compagnie en question, non, pour que ça tourne et... pour que les animateurs soient différents.
On va conclure sur peut-être le spectacle quand même. La compagnie Hannibal et ses éléphants pour Misérables. Il y a combien de personnes sur le spectacle?
5.
5 personnes, donc Cosette,
Jean Valjean.
Ah bah attends, on va pas tout vous raconter.
c'est Thierry Laurent, Cosette.
Non, c'est pas Thierry. J'ai une tête de Cosette. je joue Jean Valjean, monsieur.
Ah bah oui.
Voilà, quand même. Voilà, Cosette, non. Mais ça a d'autres.
Et Thénardier,
compagnie. Qui assume mieux le rouge à lèvres que moi. Pareil, ça fait partie de nos différences.
Ah oui, d'accord.
Je joue très bien Cosette, d'ailleurs.
On invite tout le monde à aller voir ce spectacle qui aura lieu.
Place des otages.
Place des otages.
Donc ce soir, demain jeudi, vendredi également à 21h33.
Mais ça va être difficile de faire un choix en tout cas. Est-ce que tous les invités qu'on a vus, on a absolument envie d'aller voir leur spectacle. Donc démerdez-vous.
C'est pour ça que c'est dans 3 jours aussi.
Je peux faire une information locale.
Allez,
Parce que je sais que le maire de Colombes, vous savez qu'on est... On est implanté à Colombes, à une maison secondaire. En rentrant, j'ai vu Madame le maire de Morlaix. J'aimerais bien voir si Monsieur le maire de Colombes est en vacances. Je l'invite bien sûr à venir nous rejoindre à 21h33 face à la mairie.
On vous remercie, Hannibal et les éléphants, pardon. On remercie les auditeurs, on remercie un petit peu tout le monde qui a participé à cette émission.
On vous rappelle qu'on se retrouve demain, même endroit, même heure, donc à partir de 12h et jusqu'à 14h, toujours en direct du Phare, toujours sur Canal B 94 à Rennes et toujours sur le 103.8 Fréquence Mutine à Brest.
On aura un spécial compagnie bretonne demain avec la compagnie Une de Plus, Sergent Pépère, Pied en Sol, Tango Sumo.
Sans oublier aussi... le duo Bébert et Lolo.
Voilà.
Il n'est pas breton lui, Bébert.
Bébert et Lolo, on a aussi Claire Ducreux.
Bébert est breton. C'est un scoop.
C'est un épagneul breton.
Voilà.
On vous invite à écouter donc Canal B et Fréquence Mutine demain entre midi à 14h. Et puis surtout, on vous invite à venir directement
à Morlaix,
ici à Morlaix.
Déambuler dans les rues, trouver les spectacles. Ils ne sont pas bien cachés en fait. Juste en déambulant, on arrive à trouver des choses impressionnantes. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses tout au long de ces 3 jours.
Au revoir Cathy, à demain.
À demain Paco.
Les torches maintenant s'allument par milliers. Pour la célébration de la lumière. Hurle ta joie, peuple des hommes. Rugis comme les moteurs des fusées qui foncent vers les étoiles. Le Christ est ressuscité.
Mutine, le Christ ses potes, le Saint-Esprit. 103.8 à Brest.